Donc merci d'être venu pour cette table ronde sur le récit journalistique, cette table qui vient clore un premier semestre de cycle sur le reportage qui va se poursuivre en septembre. Et donc après des grands entretiens, des professions reporters avec des journalistes des jours, puisque nous sommes en partenariat avec les jours, et bien voilà, nous attaquons maintenant au récit journalistique. Je vais donc passer la parole à Alice Géraud qui nous fait le plaisir de modérer cette table, qui va vous présenter les intervenants. Bonne soirée, merci.
Bonsoir à tous, merci d'être venus. Cette soirée est consacrée au récit journalistique. Qu'est-ce que c'est que le récit journalistique ? C'est le journalisme qui va un petit peu plus, une écriture qui va un peu plus loin, même beaucoup plus loin que l'article, qui va au-delà des fonctions basiques de l'écriture journalistique qui sont a priori, d'informer, de transmettre une information et qui s'égare parfois sur d'autres genres que peuvent être la littérature, la recherche et pourquoi pas la poésie et d'autres choses, on le verra ce soir. Nous sommes absolument ravis ce soir de parler de récits journalistiques parce que c'est pour cette raison, pour inventer un récit journalistique que sont créés les jours. Alors nous, on a une proposition parmi d'autres qui est celle du feuilleton, qui est un vieux genre renouvelé pour Internet, mais qui est un vieux genre, notamment de la presse française. Et je suis ravie d'accueillir ce soir nos trois invités qui, chacun, dans des genres extrêmement différents, réfléchissent à une façon de raconter des histoires et de raconter le réel. Alors, je voudrais parler d'abord de Ondine Milo, qui est journaliste, qui a travaillé environ 15 ans pour Libération. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur un genre dont on parlera assez particulier, dont on parlera pas mal, je pense, ce soir, qui est le fait divers. Elle a écrit des livres sur le fait divers, un livre paru en 2013 qui s'appelle L'amour à mort sur les crimes passionnels, qu'on n'appelle plus toujours des crimes passionnels, on peut en reparler. Et elle a écrit cette année un très beau et très dur vrai récit journalistique qui s'appelle Les monstres n'existent pas, sur une femme qui s'appelle, mais elle en parlera mieux que moi tout à l'heure, sur une femme qui s'appelle Dominique Cotteret et qui a tué 8 de ses nouveau-nés issus de grossesses cachées. Ondine, pour parler de choses un tout petit peu plus légères, est aussi enseignante. Elle enseigne l'écriture journalistique au CFJ, je le précise, parce que, évidemment, la question du récit, c'est aussi comment on l'apprend et comment on le transmet aujourd'hui. À ma droite, Sylvain Gir, Sylvain avec un I, je précise, puisque nous avons toutes sortes de Sylvain ce soir. Sylvain Gir est le fondateur d'Arte Radio, qui a été fondé il y a un peu plus de 15 ans, en 2002. Il se produit aussi en one man show, comme ça n'a aucun rapport, mais je pense qu'on pourra en parler quand même, on s'éloigne pas tant que ça. Arte Radio, c'est la radio qui a inventé le principe du podcast avant que ça s'appelle du podcast, et qui réfléchit en permanence et renouvelle la question du récit journalistique et du récit du réel et comment on raconte des histoires aux oreilles des auditeurs. Et comment on crée au-delà du récit, des univers autour d'une histoire. Il nous en parlera plus longuement. Enfin, à ma gauche, Sylvain Bourmeau avec un Y, et fondateur d'un tout récent média qui s'appelle AOC, comme Analyse, Opinion, Critique. Sylvain Bourmeau a été directeur adjoint des Inrocs, il a participé au lancement il y a 10 ans de Mediapart, il a été directeur adjoint de la rédaction de Libération, il est également producteur à France Culture pour l'émission La Suite dans les idées et encore, je le précise, professeur associé, ils ont des CV très longs, à l'École des hautes études en sciences sociales où, et c'est intéressant, ils travaillent sur les relations entre les médias et les sciences sociales pour réfléchir à comment le récit peut sortir de ces genres. On va en reparler. Et aujourd'hui, donc, nous allons aussi parler de son site AOC qui a été fondé avec Raphaël Bourgois, donc qui a été fondé par des journalistes, mais, et c'est ce qui nous intéresse, conçu par des journalistes, mais qui propose une forme de polyphonie dans l'expression, puisque écrivent dans AOC justement quelques journalistes, mais beaucoup de chercheurs, d'intellectuels, des écrivains de fiction. Et voilà, on va en reparler, qui se présente comme un quotidien d'auteur. Voilà, j'ai pas fait d'erreur sur vos biographies respectives, rien à rajouter. Alors moi j'avais une première question pour vous trois. Le récit journalistique, donc cette écriture un peu plus évoluée que la technique de base du journalisme, c'est un genre très noble dans la presse et en même temps, en tout cas dans la presse française, qui est étrange au pays de Balzac, de Kessel et d'Albert Londres, c'est un genre très mineur dans la place qui lui est accordée. Donc Une de mes, ce qui est très différent de la situation, je pense par exemple du journalisme anglo-saxon et particulièrement du journalisme américain, où le journalisme dit de non-fiction est un genre à ses écoles de pensée, à ses figures tutélaires dont l'une vient de s'éteindre en la personne de Tom Wolfe, qui avait écrit notamment un ouvrage qui s'appelle Le New Journalism, où il posait tout ça, qui c'est, je crois qu'il n'est pas traduit en français, ce qui me paraît assez, assez intéressant par rapport à notre sujet. Et aujourd'hui on a d'autres écoles de pensée aux États-Unis du journalisme qui s'appelle même le New Journalism, avec des auteurs comme Janet Malcolm, Adrienne Nicole Leblanc, j'en oublie énormément, David Grahn. En France, ça n'est pas le cas. Souvent, les journalistes qui font du récit journalistique sont obligés soit de créer leurs propres médias, soit de sortir de leurs médias traditionnels pour aller écrire des livres. Je voudrais passer la parole à Ondine sur ce sujet-là. Alors, je fais une toute petite précision. Je vais tutoyer mes interlocuteurs car nous nous connaissons tous. Nous avons tous, à des moments, travaillé ensemble, plus ou moins. Donc voilà, plutôt que de vous cacher cette horrible connivence, Ondine, je te passe la parole. Le livre que tu as écrit sur Dominique Cottret, Les monstres n'existent pas, c'est une histoire que tu as racontée dans Libération. À plusieurs reprises, et pourtant tu as ressenti le besoin d'en faire un livre, et l'histoire que tu racontes dans ce livre, ce n'est pas la même que celle que tu racontes, à mon sens, ce que tu as raconté dans Libération, et pourquoi, pour produire du récit, il a fallu sortir des pages du quotidien où tu travaillais.
Oui, et pourtant à Libération, on avait, parce que j'y suis plus, mais on a toujours quand même beaucoup de liberté, enfin, de forme, de beaucoup de place aussi. Pour autant, effectivement, ce que j'ai essayé de faire là, j'aurais pas pu essayer de le faire de la même façon, sans accaparer la parole sur cette histoire. C'est donc l'histoire d'une femme qui a tué ses bébés à la naissance, qui était d'accord de me rencontrer et de faire des entretiens avec moi. Et je pouvais faire ces entretiens également avec ses deux filles, puisqu'elle a deux filles. Je pouvais faire ces entretiens avec son mari, avec sa famille, ses nièces, ses cousins, cousines, etc. Au bout d'un moment, les entretiens avec elle sont devenus quelque chose d'assez particulier. Enfin, tout de suite, en fait, c'était quelque chose de très particulier parce qu'elle était d'accord pour des entretiens, mais elle ne parlait pas. C'était 5 heures de silence avec le tic-tac de l'horloge. Et à la fin de ces 5 heures de silence, elle me disait « Ah, ça m'a fait vraiment du bien de vous parler. Et j'espère que vous reviendrez. » Donc je me disais qu'il y avait quelque chose, mais c'était quelque chose qui allait prendre un peu de temps, effectivement, et peut-être aussi de place. Ensuite, il y a eu autre chose. Sa parole s'est un petit peu déliée. Elle était en ce qu'on appelle libération provisoire, c'est-à-dire en attente de son procès. Mais quand on attend très longtemps le procès et qu'on est présumé innocent et qu'on n'est pas dangereux pour la société, on est remis en liberté. Et puis après, éventuellement, quand on est condamné, on retourne en prison. Donc moi, je l'ai vue pendant cette période-là. Elle me faisait ce qu'elle présentait comme des confidences, puisqu'elle me disait « ça, Ondine, je l'ai dit qu'à vous », par exemple sur le fait qu'elle avait quand même essayé de ne pas arriver à l'issue fatale de donner la mort, mais de se faire avorter. Voilà. Donc c'était quelque chose quand même très important. Ça, je l'ai dit qu'à vous. Puis après, je me suis retrouvée à son procès, voilà, pour faire vite, où là, dans la salle, j'étais écrite, je prenais des notes, j'étais assise, et la juge lui a demandé est-ce que vous avez essayé une fois de vous faire avorter, et à dire « Oh non, j'aurais jamais fait ça, impossible, ça ne me serait jamais passé à l'esprit. » Et bon, je ne vais pas vous raconter tout ce livre et accaparer encore une fois la parole, mais en gros, donc elle disait une chose, et puis son exact inverse. Hein. J'ai été victime de viol par mon père, et puis après, non, il ne s'est jamais rien passé, il ne m'a pas touchée. Et ça pendant très longtemps. Et pourtant, je suis persuadée qu'on était dans un autre problème que le mensonge qu'on connaît tous ou la manipulation. C'était, elle accompagnait par sa parole un moment social. Quand elle pensait qu'on voulait entendre ça, elle disait ça. Voilà. Et donc ça, vous voyez, déjà, ça a pris très longtemps pour vous le raconter. Mais surtout, c'est quelque chose, dans la forme d'un article, ça va être compliqué. Et là, tout le monde va pouvoir parler de ça. Dans un article classique, rapide et court, on a pour habitude de ne pas dire « je, j-e ». C'est un thème que je sais tu veux aborder, Alice. Et, sauf qu'au bout d'un moment, je n'arrivais pas à écrire mon livre, évidemment, puisque je ne savais pas si j'allais raconter l'histoire d'une femme qui s'était fait violer dans son enfance, ou alors, au contraire, qui vraiment tout se passait bien, n'avait rien subi, qui s'était fait avorter ou pas, enfin, voilà. Et donc, par rapport à ce désarroi et cette complexité de que dire, j'ai eu besoin de raconter mes heures en tête à tête dans cette pièce silencieuse avec le tic-tac de l'horloge, mes surprises, mes déconvenues en découvrant la complexité de sa parole et mes demandes d'aide, puisque j'ai été voir tous ceux qui la connaissaient, mais aussi des psys, des avocats qui la suivaient, etc., etc., pour voilà, faire ce tableau. Et ce tableau étant une petite mosaïque complexe, ça passait à chaque fois par moi, et donc ce jeu est arrivé là, j'avais plus trop le choix. Voilà.
L'emploi du jeu et sa construction très au long, parce que, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est une année d'entretien, enfin c'est très long avec ton personnage principal, ton sujet. Oui. Est-ce que finalement, un média classique et en même temps, qui est pourtant, comme tu le rappelais, certainement celui qui laisse le plus de place au récit journalistique, en tout cas dans les quotidiens en France, est-ce que t'aurais pas permis de raconter cette histoire-là de cette façon-là?
Peut-être si on avait fait comme au jour, un feuilleton, puisque bah, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Alice elle travaille dans un média où par le système d'épisodes quand même on peut développer des choses qui sont de... mais en termes de longueur, à moins qu'on ait lancé le feuilleton à Libé, tu vois, j'arrive pas j'essaye de pas accaparer la parole et de raconter mon histoire rapidement, et j'y arrive pas. Il y a des choses, voilà, où on a besoin de longueur. Pour autant, je pense effectivement un média feuilletonnant pourrait complètement publier l'histoire avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées et les subtilités que j'ai voulu introduire.
Merci. Sylvain, est-ce qu'il fallait créer son média pour pouvoir raconter des histoires comme on l'entend et réinventer une forme de récit ?
Ah oui, malheureusement. Oui, je crois que ce qu'on a fait à Arte Radio depuis le début, on l'a fait parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas le faire ailleurs, puis ça n'existait pas. On a dû inventer le podcast ou une approximation de podcast, et on s'est rendu compte très vite que l'essence même du podcast, dans son contenu comme dans son mode de distribution, faisait qu'on était obligé de parler différemment. Le podcast, l'une des définitions du podcast, c'est un abonnement. Donc c'est un rendez-vous, donc un feuilleton. C'est-à-dire que les choses vont... Et donc il y a des podcasts qui se font avec des procédés qu'on a empruntés à la fiction, ou par exemple aux séries télé, une espèce de sérialisation. Donc il faut des personnages, il faut des débuts accrocheurs, il faut un cliffhanger en fin d'épisode. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux d'en avoir un si on veut que les gens reviennent, puisque le principe du podcast, c'est de revenir, c'est d'installer ce rendez-vous. Et puis le podcast, l'écoute, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de parler d'écoute, sinon on peut passer la journée à se dire qu'est-ce qu'il y a de la radio, qu'est-ce qu'il y a du podcast. C'est une écoute intime, solitaire. Ça n'est pas un média de masse. On n'a pas le sentiment de s'adresser et de vouloir concurrencer Europe 1 ou France Inter. Donc on parle à des solitudes. Et il me semble, moi, que l'écoute du podcast, et en tout cas des podcasts natifs, c'est-à-dire des reportages audio qu'on a conçus directement comme une, pour l'Internet, pour une distribution sur l'Internet, implique une forme de solitude, d'attention, d'immersion, je dis souvent, qui est analogue à celle de la lecture, et donc une certaine proximité. Donc on peut se permettre un ton, une adresse, on parle beaucoup d'adresse, qui est beaucoup plus directe et qui n'obéit pas aux mêmes codes que les codes d'objectivité ou de distance du journalisme ou même de la radio. Un podcast va tutoyer, il me semble. Même s'il n'y a pas d'adresse à l'auditeur, il me semble que le podcast me tutoie. Et il y a une latitude pour l'auteur de podcast de parler, de se mettre en jeu, de se mettre en scène, on l'entendra, qui me semble. Donc forcément, ça crée un média différent. Le podcast n'est pas tout à fait de la radio.
Merci. Sylvain Bourmeau, un petit peu la même question. Tu as créé un média qui écrit différemment aussi. Alors, on n'est pas dans les histoires, dans le feuilletonnage, etc. Mais on est sur d'autres types d'écriture et des gens qui viennent, qui n'ont pas forcément de carte de presse. Cela dit, c'est le cas aussi à Arte Radio. Mmh. C'est le cas au jour aussi, parfois. Pourquoi et en quoi ça permet de raconter autrement le réel que dans l'exercice stricto sensu du journaliste confié à des journalistes dans l'exercice d'un média traditionnel ?
D'abord, juste une remarque. Au fond, je me faisais la réflexion en venant. Finalement, dans AOC, il y a assez peu de récits. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se soit pas posé les questions comme tu la poses, c'est-à-dire comment prendre en charge une partie, ou plutôt comment mettre en œuvre un mode de connaissance différent de ce qui nous entoure. Et la question, pour moi, elle est là. C'est-à-dire, la manière dont j'interprète la multiplication de tentatives de médias qui ne procèdent pas avec les habitudes des médias en reprenant les formats qu'on connaît par cœur, mais qui cherchent à expérimenter d'autres types d'écriture, quelles qu'elles soient, me semble correspondre à un besoin de varier les modes de connaissance. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que on est face à des choses complexes, peut-être l'ont-elles toujours été, mais elles nous donnent le sentiment de l'être de plus en plus, de changer rapidement aussi. Et on a le sentiment que appliquer les recettes habituelles des quotidiens, des journaux de radio, etc., ne nous permet plus véritablement de donner à voir toute une complexité. Alors, à partir de là, je pense que tout est bon à prendre. Tous les modes d'écriture, tout à une condition qui est, que je pense absolument plus nécessaire que jamais, d'essayer de réfléchir à ce qu'on fait. C'est-à-dire d'être réflexif dans notre manière d'inventer ces démarches. Pas le faire pour faire différent, pas le faire, mais essayer de se poser la question, au fond, de qu'est-ce que c'est que ce mode de connaissance journalistique. En quoi il est différent du mode de connaissance des écrivains? En quoi il est différent du mode de connaissance des chercheurs? En quoi il se rapproche? En quoi on peut travailler avec les uns les autres en cassant des barrières? Celle de la carte de presse en est une, mais il y en a beaucoup d'autres, etc. Et donc, une fois dit cela, c'est vrai qu'on publie peu de récits, puisqu'on a choisi trois genres, l'analyse, l'opinion et la critique, dont on...
Si je peux t'interrompre, oui. Il y a un petit peu de fiction aussi.
Voilà. J'allais dire, les trois genres, c'est la majorité des papiers, c'est trois par jour pendant les jours de semaine. Il y a un entretien le samedi, et le week-end, il y a un texte de... On a dit fiction par commodité. En fait, c'est un mot sur lequel faudra peut-être qu'on revienne, parce que qui me paraît très ambigu, fiction. En fait, nous-mêmes, on alimente cette ambiguïté. On aurait dû mettre, mais c'est pas très joli, texte littéraire. Parce qu'en fait, de fiction, il nous est arrivé de publier du théâtre, de la poésie, narrative non-fiction, des choses qui ne relèvent pas de la fiction. Mais même si la plupart du temps, ce sont des nouvelles, donc... classique du terme. Bon. Donc oui, ça c'était très important de faire en sorte que des écrivains puissent écrire dans une case particulière, mais il leur arrive d'écrire dans d'autres cases, parce que je pense que ce qui compte, c'est pas les personnes, c'est justement, dès lors qu'on a réfléchi, le problème n'est pas de savoir si quelqu'un a une carte bleu, blanc, rouge et vraiment estampillé journaliste, ou c'est plutôt quelle démarche il va choisir d'adopter en connaissance de cause, c'est-à-dire dans un certain rapport à la vérité, à la fiction, dans un certain rapport à l'enquête ou pas, etc. Enfin, et que ce soit carte sur table, c'est-à-dire qu'on ouvre aussi cette dimension de cuisine un petit peu du métier. Donc ça me paraît extrêmement important qu'on... Alors, c'est vrai qu'en France, on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi, on est un peu en retard, pas seulement sur le genre dont tu parlais, de ce qu'on appelle narrative non-fiction, c'est-à-dire un genre qui est devenu un genre littéraire, qui est très ancien dans le monde anglo-saxon, parce que tu citais Tom Wolfe qui vient de mourir, mais on aurait presque pu parler aussi de James Agee, qui était un poète et qui a écrit un livre, qui était un livre assez étrange, de à la fois de reportage et de poésie, publié avec Walker Evans, au moment qui concernait la Grande Dépression des années 30. Donc ce sont des choses... En France, il y a une tradition littéraire qui se rapproche, mais elle a été longtemps...
Elle s'arrête presque net après-guerre, en fait. On n'enseigne plus dans les écoles de journalisme le récit. Alors là, je parle de la narrative non-fiction, qui est d'ailleurs... On emploie systématiquement le terme américain parce qu'il n'existe pas en France. Plus globalement, on pourrait aussi dire qu'un article en France s'appelle un article. En anglais, on parle de story. Et je pense que c'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire que raconter des histoires, c'est pas forcément dans la culture du journalisme contemporain aujourd'hui, tel qu'il est enseigné dans les écoles de journalisme, ou penser, ça peut-être Sylvain, tu peux nous en parler, penser à l'université. Il n'y a pas aujourd'hui de chaire de journalisme qui réfléchit spécifiquement à ces questions-là. On a des chaires de journalisme qui réfléchissent sur le marketing et le journalisme, l'économie des médias, beaucoup, avec des choses très intéressantes, sur des choses assez techniques, et très peu, finalement, sur la question de l'écriture, et même dans les départements littéraires en France. À ma connaissance, il y a une production très très faible de réflexion sur ce sujet-là.
Alors en fait, pour répondre à cette question-là, il y a une spécificité française, c'est que les écoles de journalisme, à l'exception du CELSA, historiquement, et dans une moindre mesure l'école de Sciences Po, puisqu'elle est quand même très coupée du reste de l'institution qui l'héberge, les écoles de journalisme sont des écoles très professionnelles, mais qui ne sont pas adossées à des centres de recherche, par exemple, comme elles le sont systématiquement aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, on a effectivement des économistes qui s'intéressent aux médias, on a assez peu d'universitaires journalistes, qui sont les deux à la fois, et qui travaillent à être réflexifs, comme je disais tout à l'heure, à réfléchir sur ces pratiques. Après, sur la question du mot story et de cette différence de tradition, je ne sais pas exactement, il faudrait, à ma connaissance, on ne dispose pas de ces travaux, il faudrait des travaux d'historiens qui nous expliquent quand ça dévie, parce que il me semble que le point de départ, l'origine commune de la presse commerciale, qui est dans 1830-1835, à peu près simultanément aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, dans beaucoup de pays, en fait, est le moment où cette notion de story, d'histoire, apparaît véritablement en rupture totale avec ce à quoi ressemblaient les journaux au préalable. Il y a beaucoup de choses qui changent à ce moment-là. Les modèles économiques changent complètement et surtout, les lectorats se constituent. Et comme il s'agit d'une opération commerciale grand public, entre guillemets, il faut aller chercher ses lecteurs en leur racontant des histoires. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est la concomitance entre ce moment-là de naissance du journalisme moderne et les révolutions littéraires qui ont lieu en même temps. Donc en fait, les seuls travaux qui existent sur le journalisme, de ce point de vue-là, ce sont des travaux, il y en a de passionnants, sur le 19e siècle littéraire. Il y a même une collection chez Garnier Flammarion de livres de poche sur Balzac journaliste, Zola journaliste, Théophile Gauthier journaliste, etc., qui regroupe des textes. Je pense à celui sur Zola qui a été fait par Adeline Vrona, qui est remarquable. Bon, il y a le travail de Marie-Ève Terranti, d'Alain Vaillant. Il y a beaucoup de spécialistes de littérature qui ont travaillé sur le journalisme et les liens avec la littérature au 19e siècle. Mais à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est juste avant-guerre, ça se distend considérablement. Et le fait qu'on n'utilise pas le mot story qui désigne dans le journalisme anglo-saxon, pas seulement les longs papiers, etc., mais n'importe quel article, en fait, s'appelle story. Et l'idée qu'il faille écrire un article en racontant une histoire, c'est la base de ce qu'on apprend dans une école de journalisme en Angleterre comme aux États-Unis, en fait.
Alors, ce n'est pas exactement le cas en France. Je voudrais juste vous donner la parole sur ce sujet-là, et Ondine et Sylvain, parce que vous transmettez votre savoir aux jeunes générations de journalistes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on apprend à raconter des histoires? Est-ce que ça fait partie de l'enseignement des journalistes, des futurs journalistes?
Honnêtement, moi je fais 3 mois à peu près de cours d'écriture qui s'appelle pas cours d'écriture, qui s'appelle technique de base rédactionnelle. Donc c'est vrai que dans l'idée, il y a le mot technique, quoi. Maintenant, je le fais avec mes convictions et ce que je sais faire. Et moi, je connais pas beaucoup de techniques de base. Et par contre, j'aime bien raconter des histoires. Donc c'est plutôt quand même ça que j'essaie de leur dire, de leur transmettre. Et ce qui m'a rassurée, c'est que quand l'enseignant qui me précédait m'a raconté son cours, il parlait énormément d'histoire, évidemment. Maintenant, c'est un ensemble. Et les étudiants en journalisme ne se forment pas qu'en école de journalisme, et ça c'est normal, ils se forment beaucoup sur le terrain. Moi en plus, mon groupe c'est des apprentis, donc ils sont en alternance, mais même ceux qui ne sont pas en alternance, ils ont quand même beaucoup de stages et on les encourage à multiplier les stages. Et donc leur maître de stage et puis tout simplement le boulot qu'il faut faire leur apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, ils vont retrouver aussi dans certaines rédactions le côté la technique, quoi. Enfin, je dirais que l'histoire n'est pas absente, enfin, vraiment, j'espère pas. Ben, d'ailleurs, je pense que si l'histoire est absente, au bout d'un moment, le lecteur va l'être aussi, parce que voilà. Mais c'est pas forcément la façon dont on aborde ce qu'on demande à un jeune journaliste qui débarque pour mettre des dépêches en forme. Voilà, ben, c'est sûr,
bâtonné.
Moi, je pense que ça a l'air d'être absent puisqu'on nous demande d'intervenir pour le faire. Moi, j'interviens au CFJ, à l'ESJ, à l'École W, avec les gens du Live Magazine. Donc, le Live Magazine, ce sont des journalistes qui racontent des histoires sur scène, pour le coup, en live. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment, je dirais, notre besoin de narration est impossible à rassasier. C'est-à-dire qu'il faut une histoire, il faut une story. Sur Instagram, on parle de story. Le rédacteur en chef de Vice, qui est quand même un média assez récent et qui a un certain succès auprès de la jeune génération, il demande c'est quoi la story quand il reçoit un journaliste. Donc c'est vraiment, le mot est rentré et le mot est devenu courant. On a besoin d'histoire. Et si on me demande et si on nous demande au Live Magazine d'intervenir dans les écoles de journalisme, c'est parce que je pense qu'on est vraiment dans une époque où la question de la mise en récit, peut-être de la mise en spectacle, même du récit journalistique, est fondamentale. Il y a un besoin, de même qu'il y a un besoin d'histoire dans les séries, il y a quelque chose de l'ordre de la fiction. Nous, ça fait longtemps qu'on sait, je pense, les uns et les autres, qu'il y a une vérité de la fiction, qui n'est pas la vérité objective de l'histoire ou du journalisme, qu'on peut appréhender que par la fiction. Donc, il me semble que cet apprentissage, il est absolument nécessaire. De même qu'un apprentissage du style. Mais bon, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il y a un master de création littéraire à Saint-Denis, qui a déjà énormément de succès. On a toujours pensé que ça ne s'apprenait pas, ça, qu'on n'apprenait pas à bien écrire. Or, c'est un artisanat. Faire de la radio, bien écrire, c'est un artisanat, ça s'en prend. Il y a des recettes, il y a des cours. Et tant qu'on continuera à ne pas l'enseigner, ça ne va pas s'améliorer, quoi.
Alors, ce qu'on n'enseigne pas, justement, et qui fait partie, j'allais dire, d'un des genres particuliers de ce qu'on pourrait appeler le récit journalistique, c'est l'emploi de la première personne, l'emploi du jeu, qu'on voit très, très peu dans la presse française, bah, vraiment très, très peu, et que vous employez, vous, alors à Arte Radio, on l'entend. C'est presque la colonne vertébrale de beaucoup de podcasts. En tout, ouais, enfin, oui. Alors tu me diras.
Désormais,
si c'est
beaucoup,
faux.
C'est vrai.
Ouais. Ondine, je repense à ton livre. Je ne crois pas t'avoir déjà lu en Libération, employé la première personne du singulier.
C'est la première et unique fois, en fait. Ouais.
Et là, le jeu est très présent. Il permet de structurer, de donner la distance, ta distance au personnage et parfois de faire dire des choses au personnage. Ouais. Je voudrais juste... on a des extraits sonores d'Arte. Mmh. Je voudrais lire préalablement un passage du livre d'Ondine qui parle de cet emploi du jeu, en tout cas de la place du journaliste. Vers la fin du livre, elle explique préalablement que Dominique Cotteret, son personnage, a expliqué à sa psychiatre que Ondine était devenue son amie. Et c'est ce passage-là sur lequel elle rebondit, elle répond et explique. Son amie, d'autres amis à moi dont les vies ressemblent davantage à la mienne sourient ou frémissent si je leur répète le mot. Et la distance journalistique et l'objectivité. Je ne suis pas objective. Je crois que personne ne l'est. J'ai un point de vue, j'ai même une place dans cette histoire. Ma place, la seule que je pouvais prendre, Dominique ne m'aurait pas parlé sans devenir mon amie. De façon aussi évidente, je n'aurais jamais pu la questionner, réclamer ses confidences sans devenir la sienne. Cela aurait été confortable, sans doute, tout entendre, tout prendre, tout écrire, ne rien donner, rester protégée. Je n'en suis pas capable. Je ne peux pas lui demander de me livrer sa vie en préjugeant la mienne fondamentalement séparée, à l'abri. Rien dans ce lien ne minimise ses actes, je ne l'excuse pas. Elle ne voudrait d'ailleurs pas que je le fasse, je ne m'apitoie pas. Elle n'a jamais cherché ma pitié. Dominique Cotteret ne m'a jamais fascinée. Ni l'image du monstre, ni la découverte de la femme douce et empathique. Elle m'a déconcertée, confrontée à de nombreuses questions. J'ai tenté, pas à pas, de progresser. Je ne l'estime pas plus digne d'intérêt qu'aucun d'entre nous, qui le sommes tous. Sa particularité est qu'elle est une femme infanticide qui veut bien essayer de parler, qui accepte un regard sur sa vie. Elle est la seule ou l'une des très rares. Quand Dominique sortira, je continuerai de la voir, de la soutenir, de l'aider dans ses démarches, de lui remonter le moral, comme aujourd'hui dans mes lettres. Je continuerai de lui apporter ce que j'ai et qu'elle n'a pas, qu'elle apprécie chez moi, une facilité pour la parole, une croyance déterminée en la parole, parce qu'elle est mon amie. Voilà. Je trouve que ce passage dit beaucoup de choses de la nécessité presque vitale pour l'existence de ce récit, de l'emploi de la première personne. Est-ce que tu veux en parler un peu plus sur...
Ben effectivement, si tu choisis ça, je crois qu'effectivement le jeu m'a permis aussi d'expliquer quel est le lien qui peut s'établir et qui va s'établir quand on passe un an, parfois plus, avec quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui m'ont un peu charrié, etc. Et je leur ai dit, mais attendez, je vous vois, hein, vous qui, des copains, journalistes de télé, etc. Je sais très bien que vous allez au baptême du petit, là, votre reportage, quand vous allez être resté 6 mois. Évidemment, après, vous avez des nouvelles, la grand-mère, vous allez au baptême. Enfin, c'est pas possible autrement. Donc, moi, je me suis dit, bon, faut le dire. À partir du moment où cette femme commence à me dire, ça me fait du bien de vous parler, vous êtes importante pour moi. Ok, donc je suis importante pour elle. Ça se précise après, évidemment, elle dit vous êtes mon amie, etc. Donc là, j'ai un rôle et le jeu me permet de le dire. Voilà pourquoi le jeu aussi. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Pour préciser cette position, j'ai pensé que c'était un truc bêtement d'honnêteté, un peu, et qui rend sa liberté au lecteur. C'est-à-dire, le lecteur, il peut dire, on dit de Milo, elle exagère quand même, elle va trop près, moi ça me plaît pas, etc. Il sait d'où je me place. Moi, personnellement, je le dis aussi, le lien n'a jamais été un problème pour moi pour la critique. Je pense même que je suis plus critique avec mes amis qu'avec les inconnus, où je me dis, j'en sais rien, je les connais pas, je vais pas commencer à leur dober dessus. Hein, genre, mes amis, j'y vais. Bon, voilà. Moi, le fait de m'approcher de cette femme, ça m'a pas rendu ses crimes moins monstrueux. Ses crimes, ça l'a rendu, elle, humaine. Mais pas ses actes, ça n'a jamais minimisé, adouci, écarté. Je suis partie de ces actes-là parce qu'ils étaient pour moi insurmontables et que j'avais envie d'aller derrière, mais ça n'a pas minimisé mes capacités critiques, je crois.
Ce que tu dis là, c'est que le jeu n'est pas forcément... On entend souvent, on peut penser que le jeu est un jeu un peu... l'emploi de la première personne peut être... égocentrique ou un jeu de mise en scène, comme on peut le voir. Je pense notamment par exemple à la télévision où il y a une mise en scène du journaliste qui participe d'une mise en scène de la construction d'un spectacle d'image, d'un spectacle audiovisuel. Là, on est dans autre chose, c'est-à-dire c'est donner sa place et la distance entre le journaliste et son sujet. Je ne sais pas si tu...
Oui, je voulais réagir ce que tu viens de dire et ce que disait Ondine, parce que c'est vrai de certains dispositifs de télévision, mais c'était vrai aussi du nouveau journalisme. Tom Wolfe l'a théorisé, c'est-à-dire la mise en scène de soi dans un dispositif d'enquête et dans l'écriture, la restitution de cette enquête, apparaître soi-même comme un personnage de sa propre histoire, c'est l'une des bases du nouveau journalisme. Mais il me semble qu'il y a deux choses dans le passage que tu as lu du livre d'Ondine. Il y a le jeu et il y a, et les deux sont liés, l'empathie. Et ce sont deux choses différentes pour moi, parce que le jeu... Ça renvoie au choix de la subjectivité assumée pour résoudre un problème que, quand on est journaliste et qu'on est un peu honnête, on partage tous, avec l'objectivité telle qu'on la pratique au quotidien et on l'apprend dans les écoles de journalisme. C'est-à-dire, ce qui s'enseigne dans les écoles de journalisme et qui est pratiqué de la façon la plus caricaturale dans les chaînes d'information en continu, qu'on appelle le pif-paf. Qui est cette façon de produire l'objectivité en mettant en scène deux opinions radicalement différentes, comme si d'ailleurs il pouvait y avoir que deux opinions sur un sujet. En général, on n'imagine même pas qu'il puisse y en avoir 3, 4, 5, 150. Donc, il y en a forcément deux. Et pour moi, j'avais trouvé assez exemplaire la campagne de publicité de la nouvelle version française de la chaîne de Patrick Drahi en France, I24, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait deux moitiés de visage qui étaient accolés pour faire un seul visage. Si c'était des moitiés, vous aviez d'un côté une femme musulmane voilée et de l'autre une bonne sœur avec un voile rapproché. Et donc le slogan dessous de cette chaîne, c'était l'information, c'est l'union des points de vue. Par une espèce de formule alchimique, enfin dont on ne sait pas très bien comment elle marche, mais on produirait de l'objectivité comme ça. Et je crois que on est un certain nombre de journalistes à avoir un problème épistémologique, pour employer un gros mot, avec ces façons de faire. Et donc on cherche des solutions parce que là, les sciences sociales peuvent nous être d'un grand secours, ou la philosophie, parce que ça fait quand même très 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 longtemps qu'on réfléchit à ces questions, ou les écrivains aussi réfléchissent à ces questions autrement, avec leurs mots, etc. Mais et donc l'idée importante, c'est pas tant l'idée d'objectivité que l'idée d'objectivation, c'est-à-dire un processus. Et le fait d'assumer sa subjectivité peut être une manière de produire de l'objectivation, par exemple. Donc ça, ça me semble très clair dans la démarche qui est celle d'Ondine là. Mais la question de l'empathie, c'est encore autre chose. La question de l'empathie, c'est par exemple ce qu'on peut retrouver dans des travaux aussi de chercheurs, d'anthropologues. On le sait bien, des anthropologues qui vont vivre pendant 10 ans sur le terrain avec des gens. Enfin, comment pourraient-ils ne pas être empathiques ? Et d'ailleurs, l'empathie est pensée comme une méthode de travail. Elle ne pose pas de problème. On se pose pas la question de. Évidemment, on se pose la question de la distance. Mais comme le disait Ondine, on peut être aussi critique avec des gens dont on est proche. L'important. Encore une fois, c'est de le savoir, c'est de savoir ce qu'on fait, c'est de se regarder en train de faire en permanence et d'y réfléchir et d'écrire dessus, quoi. Et ça, moi, de mon point de vue, le journalisme standard nous pousse plutôt à ne pas nous poser de questions, à nous dire, de toute façon, on n'a pas le temps, on est dans des rythmes, etc. Donc, on applique les méthodes,
les
techniques de base. Je pense que c'est d'ailleurs. Probablement, on peut faire l'hypothèse que si ce type d'écriture à la première personne se développe, ou ces formes de narrative non-fiction se développent, c'est bien qu'il y a une gêne ressentie par beaucoup de journalistes dans les situations de travail dans lesquelles ils se retrouvent, et une gêne par rapport au fait que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, ces techniques de base, enfin, ça nous.
Elles
sont bien utiles pour pouvoir produire un journal tous les jours.
On a des gens qui arrivent et qui vont raconter un truc sans dire où c'était, comment s'appelait la personne et ni quand ça s'est passé. C'est pour ça qu'on leur donne aussi quelques bases. Mais ça ne suffit pas du tout.
Ouais. L'idée de la nécessité du récit, c'est pas simplement, je crois aussi ce que tu voulais dire, c'est pas simplement un supplément d'âme par rapport à ces techniques de base. C'est aussi un supplément d'informations
de connaissances. Voilà. Je vais citer juste pour rebondir sur une production d'Arte Radio qui a fait une amie qui est sociologue et ma collègue à l'école des études qui est Isabelle Couton. Mm-hmm. Isabelle a travaillé très longtemps dans des banlieues de la région parisienne auprès de délinquants, de gangsters même, enfin de gens dont l'un qui est mort.
Wilfried.
Voilà, et dont elle a été très proche, avec lequel elle a fait des entretiens pendant très longtemps. Et donc, ça témoigne vraiment du type d'empathie qu'on peut lire dans les sciences sociales et dont elle a donné une version qui n'est pas de la sociologie, je pense, à Arte Radio. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, et puis peu importe, on n'a pas besoin de mettre une étiquette. Mais...
C'est vrai. Il y a une grande défiance quand même par rapport à l'objectivité, même par rapport au réel. C'est quand même l'événement de ce 21e siècle. Plus rien de ce qui s'avance n'est cru. Donc, bombardement sur Raqqa, non, je pense que non. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, il n'y en a pas eu. Enfin, c'est quand même difficile de produire de l'information et de l'objectivité dans un monde où la vérité et le réel n'existent plus. C'est fini. Ça n'existe plus. Et bizarrement, j'ai l'impression, alors là, mais c'est vraiment, j'ai pas de statistiques ou d'études, que le jeu est plus cru que l'absence de jeu, que l'objectivité. C'est-à-dire dire il a plu des bombes sur Gaza n'est pas cru, mais dire je suis dans, tu vois, et ajoute bizarrement une dimension de crédibilité. Donc il y a déjà une grande défiance par rapport au réel. Après, on va aborder l'extrait là peut-être, oui, c'est marrant parce que du coup, il y a plein de choses qui sont comprises là-dedans. Juste pour situer, donc c'est une série documentaire de Delphine Saltel pour Arte Radio sur la question école publique, école privée. Et je vous le présente comme elle me l'a présenté. Elle me dit, ça, si tu veux, l'école publique, l'école privée, c'est super dans les dîners. Ça peut te faire tout le dîner entre parents. Et elle dit, c'est super comme débat. Alors, on va prendre un directeur d'école, un inspecteur d'académie, un prof, peut-être Finkielkraut, un prêtre, un sociologue. Et puis, on va faire le débat école publique, école privée. Or, elle dit, c'est quelque chose que tu ne vis vraiment qu'à la première personne quand ça te concerne. C'est le choix de l'école pour ton gamin. C'est-à-dire, tu grandis avec un certain nombre de valeurs dans nos milieux qui vont être plutôt laïques, et puis arrive un moment où, bon, Donc la série de Delphine Saltel, qui est en 4 épisodes, je crois, commence comme ça, où elle dit « Le matin, j'emmène mes filles à l'école, et c'est super, j'adore ça, parce que tous les parents, au même moment, sont dans la rue, emmènent leur enfant à l'école. » Sauf que le flot des parents se divise en deux, et la plupart vont à l'école privée, et elle va traverse la rue pour aller à l'école publique en maternelle. Et donc, dans cette série, et elle s'aperçoit que ses enfants sont parmi les seules blanches de la classe et de l'école. Donc elle est vraiment sur ce terrain-là. Elle va faire un travail journalistique et documentaire, c'est-à-dire que dans cette série, elle va interviewer une sociologue des parents des enfants, mais elle ajoute à ça sa narration personnelle, la mise en scène d'elle-même dans sa prise de son, et sa parole surajoutée en studio. Donc on va écouter un extrait qui dure 3 minutes de « Il y a deux écoles » de Delphine Saltel.
Avec la mère de Rokeya, il y a un truc assez chaleureux qui s'est installé entre nous depuis le début de l'année. Pourtant, on n'a pas le même style.
Ouais, c'est dur, nous aussi. Gloria, ce matin, elle a été coquine.
Mais en fait, c'est ça que j'aime bien. Avoir une occasion dans la journée d'échapper à un bocal socio-professionnel.
Ouais, bah c'est la même, nous on a la même. Hein. Ne vous désespérez pas.
Là, c'est mon accent au perché de Bourges.
Vous n'êtes pas seule.
Un petit sur-régime dans la voix qui me trahit.
La nuit, elle a encore des couches?
Non.
C'est vrai?
Bah oui, elle a fini de coucher avec les...
Qui signale que je suis enchantée de la situation. Je parle avec une vraie dame en gandoura.
Tu vois, Rokeya, elle n'est pas de couche la nuit.
Nous échangeons sur nos petites filles de 3 ans, le goût des autres, le vivre ensemble.
Écoute, Gloria,
tout ça, ça peut marcher.
Je
me lamente sur l'absence de mixité dans cette école, mais au fond, dans une école plus équilibrée, je suis sûre que je serai irrésistiblement aimantée par mes semblables. Alors qu'ici, je n'ai pas le choix.
Si tu vois qu'elle n'est pas bien et tout, la réponse.
Je suis obligée de me mélanger. Et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Plus de bien que si je papotais avec mon club.
Bon, merci pour les conseils.
Avec une blonde en slim qui me parlerait d'homéopathie ou de son panier bio.
Ça peut être comment en français?
Ça doit être une coquinelle.
Je trouve ce qu'on voit bien là-dedans, et c'est assez intéressant par rapport à cette nouvelle forme de narration du jeu, c'est qu'il faut être drôle, il faut avoir de l'humour et il faut se moquer de soi. Pourquoi ça marche? Parce qu'elle se moque d'elle-même. C'est là où il y a une forme d'éthique, je pense, de distance, hein, dont tu parlais très justement, qui doit intervenir. C'est insupportable si on fait du jeu pour justement retrouver un statut de maître à penser et tout. Et le podcast fonctionne essentiellement sur un questionnement, et un questionnement à voix haute. Et tous les bons podcasts, aux États-Unis comme en France, fonctionnent non pas pour affirmer des vérités en disant bah, « c'est comme ci, c'est comme ça, à l'école, il n'y a qu'à, faut faire ça », mais plutôt « est-ce que… » Bon, et le fait qu'elle utilise cette phrase magique « ça, c'est mon accent au perché de Bourges », ça change tout. Je trouve que ça change tout. Ça change complètement pour l'auditeur. Il y a immédiatement une complicité, un attachement. La critique est contenue dans l'objet lui-même. Enfin, voilà, il y a quelque chose dans le podcast, une distance comme ça qui est vraiment nécessaire.
J'ai une question. Est-ce que le jeu était présent dès le début d'Arte Radio ou est-ce qu'il s'est insinué,
Il était présent dès le début. Delphine Saltel faisait son journal de jeune prof en ZEP, donc qu'elle a repris, enfin c'est très drôle, 15 ans après, en retournant sur les lieux, on l'entendra peut-être tout à l'heure, et Perrine Kervan faisait son journal de jeune mère, voilà. Mais après, pendant longtemps, moi j'interdisais sur Arte Radio les questions, le commentaire, les questions journalistiques. Mais il y avait des récits à la première personne.
C'est quoi les questions journalistiques?
Je me trouve actuellement au moins un du centre Georges Pompidou, et, enfin, tu vois, ces espèces, les chapeaux, les micros, les choses comme ça, j'interdisais. Et puis les questions, parce que je pense que dans cette immédiateté, cette complicité, cette intimité du podcast dont je parlais, le fait de supprimer les questions, la promesse du podcast, enfin d'Arte Radio en tout cas, c'était « il y a une voix qui va te parler ». Donc Pascal Pascariello a interviewé des grands braqueurs pendant 5 heures. Ce braqueur va te raconter ça. Il te la raconte à toi directement. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'était la promesse d'un récit, entre guillemets, brut. Alors qu'il n'est absolument pas brut. Il est archimonté. Il est mis en scène. Il a été préparé. Mais il se donne comme une histoire, comme un conte, comme une narration. Voilà.
Ça me fait une transition vers un, je vois que l'heure avance, vers un genre dont on a commencé à parler tout à l'heure, et évidemment Ondine pour travailler sur ce genre particulier, qui est le fait divers et qui semble, peut-être que je me trompe, mais n'exister que dès lors qu'il est mis en récit journalistique, dès lors qu'il y a on trouve un format de narration. Pourquoi le fait divers, pourquoi par exemple toi tu as choisi d'écrire sur le fait divers? Est-ce que c'est lié à l'idée de raconter des histoires, ou est-ce que c'est autre chose, ou est-ce que c'est cette vieille histoire que le fait divers fait société, ou pas du tout? Qu'est-ce qui fait que tu t'es plongé dans cet univers-là très particulier?
Ben, c'est ça, mais c'est les deux qui se rejoignent en fait. C'est-à-dire, effectivement, bon, ça c'est personnel, aimer les histoires singulières, mais c'est vrai, moi il y a une phrase que j'adore de Marguerite Duras, que j'ai mis dans le bouquin, qui dit « plus c'est personnel, plus tu touches à l'universel ». J'y crois beaucoup quand on le fait d'une certaine façon, hein, pas quand on, voilà, mais par exemple de la façon dont le fait Delphine, etc. Et donc je pense que le fait divers dit plus que le fait divers quand on le traite d'une certaine façon, c'est-à-dire quand on raconte les parcours, les existences, les... Enfin, il y a quelque chose qui est fascinant quand on travaille dans le fait divers et qu'on va s'asseoir dans une cour d'assises, etc., c'est qu'on est là, on est assis, il y a l'accusé qui tremble souvent, enfin qui va pas très bien. En tout cas, il y a des témoins qui sont aussi très impressionnés à la barre. C'est très grave, on parle de crime. Et puis tout d'un coup, bah, on parle aussi de comment ils vont au supermarché, de comment le couple s'engueule, des problèmes avec les enfants qui sont pas sages, etc. Et puis on ferme les yeux, on dit « Ah, bah, c'est exactement comme moi, en fait. Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait comme à la maison. » On dit « Ah oui, mais il l'a trucidé après. » Et ça, c'est quelque chose, voilà, où on se rend bien compte que ça nous dit des choses sur comment on vit, et qu'après, ça va nous dire des choses sur la violence. Mais la violence, ça concerne beaucoup de monde, comment elle arrive, comment elle se transmet, comment elle est retransmise ou comment elle est arrêtée. Voilà les mécanismes de la violence. Pour moi, se plonger dans le fait divers, c'est réfléchir à la violence, d'où elle vient et comment elle se répercute, comment on la retransmet. Et donc, effectivement, on passe par l'histoire singulière, mais j'ai l'impression qu'on retrouve des histoires, pour finir vraiment ma réponse. Cette histoire-là de Dominique Cotterêze, je la raconte en appelant de temps en temps, en convoquant les histoires d'autres femmes infanticides, parce que je suis absolument... estomaquées de à quel point elles se ressemblent, à quel point elles ont fait les mêmes gestes au même moment, à quel point elles ont voulu garder les corps, par exemple. Tout le monde connaît l'histoire de Véronique Courgeot, mais en fait, toutes ces femmes vont faire ça, et ça a énormément de sens. Voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est l'histoire, et c'est ce qu'on peut dire à travers cette histoire.
Sylvain, tout à l'heure, tu disais, quand on discutait avant de venir ici, que le fait divers avait un vrai pouvoir sur l'auditeur. Il se passait quelque chose de particulier quand on raconte des histoires de faits divers. Pourquoi?
C'est l'invention, il me semble, de la presse contemporaine. Enfin, le succès industriel de la presse au XIXe siècle, il est porté par le fait divers. Tout le monde adore ça. Et sur Arte Radio, on a cette conviction qu'à un moment donné, les gens doivent pouvoir se raconter par eux-mêmes. Donc un braqueur, il y a une espèce de morale qui passe par une amoralité, où un braqueur, une michetonneuse, une prostituée va raconter son histoire à sa façon, avec ses mots, et qu'on va pas se poser la question de dire tiens, tout d'un coup, par exemple, ça arrive, c'est un exemple idiot parce que c'est un podcast qui va être en ligne dans quelques semaines, il y a deux filles ex-cambrioleuses, ex-prostituées, c'est maintenant des vieilles dames, hein, des dames d'âge mûr, et elles se retrouvent le samedi, puis elles fument du crack ensemble. Et elles parlent beaucoup de toxicomanie, elles parlent beaucoup d'addiction. Eh ben, je me rends compte, mais c'est le cas dans d'autres podcasts d'Arte Radio, ça sortira pas de cette salle, on tombe complètement sous le coup de la loi de 70, c'est-à-dire que elles disent, tiens, c'est bon. Ah, elle est bonne, cette cocaïne, vraiment, elle me fait... On n'a pas le droit de dire ça, par exemple. On n'a pas le droit de dire ça en presse. Il y a toujours une loi, on ne peut pas présenter les stupéfiants sous un jour favorable. Bon, cette loi est archaïque et délirante, et elle a toujours été stupide, mais je m'aperçois que si nous, on veut être un peu sincères, si on veut donner la parole aux gens, on va aussi entendre des choses qui nous déplaisent. Tous les documentaires qu'on fait en banlieue, les gens ne parlent pas du tout
comme on doit parler de la banlieue dans les médias. C'est-à-dire que les gens disent la tour F, c'est des Noirs, la tour G, c'est des Arabes. On ne doit pas dire ça dans les médias. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Donc, or, les gens parlent comme ça. Donc, moi, ça me... J'adore ça, cette idée de cette proximité. Pendant longtemps, on s'est dit, être journaliste ou faire du documentaire, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. On va tendre notre micro aux victimes et tout. Je crois que maintenant, les premiers concernés, ils parlent. Ils le prennent, le micro. Et nous, notre rôle, c'est aussi de les aider, qu'ils le fassent bien, parce que la libre antenne, c'est pas du, ça ne produit pas forcément du journalisme ou de la qualité. Mais l'une des fonctions d'Arte Radio, qui est un média où les projets peuvent être faits par des gens qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas journalistes, qui ne l'ont jamais fait, c'est qu'on forme les gens. On forme, et c'est intéressant qu'il y ait justement des gens de cité, par exemple, qui m'envoient des projets et qui décident de raconter leur histoire et d'être maître de leur récit, de leur narration, de leur voix. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et on va retrouver ça dans la bande dessinée, on va retrouver ça dans l'autofiction, dans l'autobiographie, on retrouve ça dans la littérature depuis pas mal d'années. Donc cette revendication du jeu, elle est à la fois peut-être dangereuse, que devient le collectif dans un monde d'individualité qui se raconte, mais elle me paraît fondamentale.
Sylvain, tu voulais dire quelque chose sur le fait divers? Moi, j'avais une question à te...
Non, mais... Sur le fait divers?
Oui.
La question était sur le fait divers?
La question était sur le fait divers.
Ah oui, mais
la... Non, non, mais c'est... aujourd'hui, on s'aperçoit que le fait divers intéresse aussi le récit de chercheurs. Je pense notamment à des personnes comme Yvan Jablonka qui ont pu s'intéresser à un fait divers que tu as dû couvrir, si ma mémoire est bonne, aussi, oui, Ondine. Oui. Et qui s'aventurent hors de leur terre primaire pour produire un récit qui est à la croisée entre celui de la recherche et celui du récit journalistique que nous, on connaît et on peut produire éventuellement. Et je voulais avoir ton regard ça.
Alors, sur cette tentative-là particulière, il faut dire peut-être, parce que ça s'est assez peu dit, parce que les gens n'ont pas trop osé, mais dans le milieu académique, parmi les historiens, y compris parmi les vrais amis d'Yvan Jablonka, peut-être parce qu'ils étaient vrais amis, ils pouvaient être critiques, ce livre n'est pas passé du tout. Et les gens n'ont pas compris ce qu'Yvan Jablonka a voulu faire. Ça a posé de gros problèmes, en fait. Il y a eu un seul texte, à ma connaissance, public, très fort, de Philippe Artière, qui est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi aux faits divers également, qui est également historien, mais qui fait la part des choses entre une pratique historienne et une envie de littérature qu'il peut partager, parce qu'il est aussi écrivain. C'est plutôt le mélange des genres entre la littérature et le fait divers qui peut poser problème, parce que, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'on peut tout faire à condition d'être un peu au clair avec ce qu'on fait et vis-à-vis du lecteur. Quand les choses sont un peu brouillées, ça peut poser des problèmes moraux, en fait, assez forts. Moi, il se trouve que par ailleurs, mais Ondine le sait parce qu'on avait eu un peu cette discussion à Libération, moi j'ai une gêne très personnelle. Sylvain disait tout le monde aime les faits divers. Moi, pas du tout, par exemple, mais j'ai jamais aimé les faits divers.
C'est louche.
C'est louche, ouais, sans c'est doute, louche. Ouais. Non, mais comme je n'aime pas non plus les films d'horreur, par exemple,
encore plus louche.
Mais si, parce que ça me fait peur, tout simplement, les faits divers, souvent. Je préfère les choses qui me font rire, souvent. Non, mais sans blaguer, je suis pas un grand lecteur de faits divers. Ça m'arrive d'en lire quand il y a certaines dimensions un peu politique ou enfin, mais il faut qu'il y ait des dimensions particulières pour que ça m'intéresse.
Alors, et, franchement, moi, c'est juste ce que je déplore, c'est qu'il y a rarement d'autres dimensions que juste le factuel, voilà. Désespérant. C'est pas du tout ça que je défends pour le coup.
Non.
Mais alors, le factuel désespérant, je comprends que ça t'intéresse.
Mais juste, moi, je voulais faire part d'une expérience personnelle parce qu'elle est, que j'ai faite en démarrant en fait vraiment le journalisme par rapport à ça. Et qui, je crois, explique peut-être une partie des choses. Il se trouve que j'étais stagiaire à Libération. On est au milieu des années 80 et J'écrivais déjà dans le journal, mais dans des registres qui n'avaient rien à voir. J'écrivais sur le rock, sur la musique. Et comme stagiaire au service d'InfoGéné, je me suis retrouvé à faire une enquête sur un fait divers, pas très grave, mais à Champigny, dans la banlieue parisienne. Et à l'époque, il y avait des espaces formidables dans Libération. Il y avait notamment des doubles pages d'enquête. Et je me suis retrouvé à... parce que le sujet était quand même très symptomatique de questions de société, voilà. À l'époque, le chef du service, René-Pierre Boulut, m'avait demandé d'en faire un long papier, etc. Donc je me suis trouvé à devoir écrire, et j'ai été pris de vertige, enfin d'abîme, devant toutes les possibilités d'écriture qui s'ouvraient à moi. Et j'ai eu... je ne sais pas comment dire, je me suis senti terriblement responsable. Encore une fois, ce n'était pas des histoires de meurtre, c'était vraiment des histoires d'injures racistes dans des cages d'escalier. Donc on ne peut pas dire que c'était... voilà, ce n'était pas grave. Mais quand même, ça concernait la justice. C'est-à-dire que des gens potentiellement... Enfin, des gens allaient se retrouver devant des juges, etc. Et le fait que moi, j'imprime... enfin, que mon histoire soit imprimée dans un journal et que cette version participe du jugement collectif me terrifiait. Enfin, je veux dire, je me sentais complètement... Enfin, de la même façon, je faisais des études de droit à l'époque. De la même façon, c'était très clair pour moi que jamais de la vie, je pourrais être magistrat. Par exemple, j'aurais pu imaginer être avocat, mais jamais magistrat pour les mêmes raisons. Et c'est trop d'assumer ce genre de responsabilité, alors que je n'ai aucun problème à dire que j'adore ou je déteste un disque, un livre, et être très cassant dans mes jugements sur des œuvres d'art. Mais ça, c'est autre chose. Donc, ce vertige-là m'a fait prendre conscience très tôt de la marge de manœuvre très grande qu'il y a dans ce type d'écriture et du recours aux micro-fictions en fait en permanence, puisqu'on doit faire, on doit camper des personnages, on doit s'attacher à décrire un décor, et on pourrait le faire autrement. Donc il y a des partis pris purement formels, esthétiques en fait, qui sont très forts, y compris dans ce genre d'écriture. Encore une fois, c'était pas une brève, hein, c'était je sais pas, 12 000 signes. Et donc ça m'a fait réfléchir très tôt et très pratiquement. Alors en plus, il se trouve que c'était, je sais pas, quelques jours ou quelques semaines avant le drame qu'a été la remise du texte par Marguerite Duras de l'histoire du petit Grégory dans la même rédaction.
C'est justement, comme tu dis, du jugement.
Absolument.
C'est purement du jugement quand elle parle du petit Grégory et qu'elle dit la mère est coupable, forcément coupable. C'est terrible, mais c'est absolument l'inverse de ce que je défends.
Mais moi,
je pourrais pas être magistrat non plus, et je pourrais même pas dire qu'un livre est nul ou un film.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que Ondine t'en parle très bien, je trouve, dans Les monstres n'existent pas, qui est comment le fait divers. En traitant du fait divers, le journaliste entre par effraction dans l'intime et le rend public. Et effectivement, ça peut être extrêmement malaisé pour des journalistes, mais je trouve que la comparaison d'Ondine, qui serait incapable de descendre un bouquin ou un film, est intéressante aussi. Les effractions,
j'ai dit que du bien, c'était terrible.
Le fait divers, c'est jamais un fait divers, c'est toujours... Après, la question est la question du récit journalistique, comme d'habitude, c'est la question du temps. C'est que tout simplement, si nous, on a besoin de s'inscrire dans ces nouvelles formes de travail, c'est qu'on a besoin de temps pour faire du bon journalisme. Et dès que tu as du temps, et nous, on l'a pris avec... tu parlais de Wilfried, d'Isabelle Coutant et Média Audig. Média Audig, il fait des grands documentaires. Wilfried, c'est plus de 2 ans de travail. Qui a connu Lolita, c'est étalé sur 9 mois de travail. Qui a connu Lolita, c'est un fait divers banal à Marseille. Toute la presse l'a traité. Tout le monde, toutes les télés, tout le monde. Une femme retrouvée morte avec 2 enfants. Le quartier n'a rien vu. Boum. En 24 heures, il n'y avait rien ce jour-là. Ils ont tous fait la une. Lui, il a passé 9 mois. Quand tu passes 9 mois, ce n'est pas du tout la même histoire. Et un fait divers, il met en jeu la société, la justice, la police, la famille, un quartier, des gens. Évidemment, au bout d'un moment, on dit oh, « c'est un mythe grec ». Mais c'est souvent un mythe grec. Wilfried, c'est un mythe grec. Tout d'un coup, ce garçon... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous renvoie. Et il y a des questionnements, il y a de la fiction, il y a du perso.
Tu peux expliquer un tout petit peu, parce que vous avez deux parlé de... Non, j'ai juste pour que l'auditoire comprenne. Bah,
tout ça,
parce que tu as parlé tout à l'heure du travail qu'avait fait Isabelle Coutant, sur Wilfried. Et cette semaine, Arte Radio republie
les autres œuvres de Mehdi Aoudi. De toute façon, tout ça est en ligne. Vous trouvez tout ça sur.
C'est l'histoire d'un garçon qui finit mal quand même. Ouais,
c'est un garçon qui finit mal. Ouais. C'est un ancien caïd de cité, effectivement, que Isabelle Coutant avait rencontré en socio il y a 20 ans. Et puis là, il décide de s'acheter un pavillon. Je dis voilà, je suis rangé des voitures, fini les bêtises, j'achète mon pavillon. Et puis à ce moment-là, la cité, le destin, tout ce qu'on veut, le rattrape, quoi. Ça met en jeu. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce documentaire, on entend la journaliste du Parisien, l'avocate, donc les différentes formes de récits, le récit de la justice, le récit du journal, le récit des amis. Et tout ce télescopage, on essaye de faire émerger un portrait. Mais encore une fois, c'est le temps. Un récit pour qu'il se déploie et pour que justement le fait divers cesse d'être un fait divers anecdotique, pour qu'il touche non seulement aux questions de société, mais à notre humanité commune. Et c'est un peu ça l'intérêt de ce boulot. C'est pour ça qu'on fait ça, non? Et on n'a pas souvent le temps. Et nous, à travers, je pense qu'on essaye de faire, tous les quatre, c'est ce qui nous caractérise. On essaye de se retrouver du temps pour déployer le journalisme sur non seulement d'autres formes, mais une autre temporalité.
Non, mais juste pour clore ce micro-débat sur ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas le fait divers, je voudrais juste dire qu'un fait divers où il y a juste un alignement de choses sordides et qu'on ne sait pas d'où viennent les gens, qui sont, ce qui s'est passé avant dans leur vie, ce qui va se passer après dans les semaines qui suivent, en fait, on déteste tous, en fait. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de débat.
Comme il est 20 heures passées qu'on est dans une bibliothèque, je vais faire une citation de Roland Barthes. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, sur la structure du fait divers, il dit que ça interroge les troubles de la causalité quand on ne comprend pas ce qui se passe et que c'est ce qui est intéressant dans le fait divers. Mais il dit aussi autre chose, il dit que, je crois que ça commence comme ça, enfin ça doit être très mal cité, mais une mauvaise citation de Roland Barthes, c'est mieux. Prenons un assassinat, s'il est politique, c'est une information. S'il n'est pas politique, c'est un fait divers. Et après, effectivement, ça ouvre un champ des possibles en termes de récits, par exemple, très intéressant. Là, on va peut-être laisser la parole à la salle vu l'heure, mais j'avais amené avec moi pour lire, et là, ça sera une lecture très courte. Quelque chose. Félix Fénéon, qui écrivait des faits divers, des nouvelles en trois lignes. Et on peut voir que dans le récit journalistique, il n'y a pas que le temps qui compte et pas que la longueur, parfois, mais qu'il y a réfléchi pendant très longtemps. Je vous en lis une seule, la première, pour aller vite. Rattrapé par un tramway qui venait de le lancer à 10 mètres, l'herboriste Jean Dessilles de Vanves a été coupé en deux. Point. Voilà. Et on est sur un fait divers non politique, là, pour le coup. Il est prévu qu'on vous laisse nous poser des questions aux trois invités. Donc, les questions sont ouvertes.
Ouais, ça marche. Ben merci pour ces éclairages. Vous avez parlé des enseignements en création littéraire dans les universités, aussi la difficulté pour les journalistes de s'appuyer sur des centres de recherche et sur des chercheurs. Ça fait un petit peu plus longtemps que 2 ans hein, qu'à Paris 8 qu'il y a un master. Ça fait 6-7 ans. Il y en a un au Havre, il y en a un maintenant à Marseille, il y en a un à Cergy. Justement, est-ce que vous pensez que c'est de ce côté-là, du côté des gens qui, venant de la littérature, ayant des assises dans la narratologie, dans la stylistique, dans ces choses-là, et qui maintenant s'intéresse aussi à la manière dont on écrit, plutôt que du côté du journalisme, qui a des possibilités de créer des interactions et justement de s'appuyer sur une recherche.
Moi, j'en suis sûr. Moi, j'ai été franchement très choqué au CFJ. J'ai pas du tout compris quand j'ai vu les cours qu'ils avaient, qui n'est pas tout simplement des cours sur la nouvelle, les grands écrivains de nouvelles, David Grann, étudier Mark Twain, étudier Gay Talese, étudier Tom Wolfe, étudier Hunter Thompson, mais aussi lire des bandes dessinées, leur montrer des films, des séries. On devrait apprendre la narration, l'écriture, tout simplement. Comment on construit une histoire, un personnage, comment on fait exister un perso, ça me paraît être un enseignement qui devrait être fondamental et dans toutes les écoles, aussi bien transmédia, cross-média, raconter une histoire, c'est, encore une fois, ça s'enseigne, ça s'apprend.
Alors, je voudrais juste qu'on peut-être défendre le CFJ.
Très bien.
Parce que je pense que dans le panel des écoles qui existent, c'en est une qui travaille quand même pas mal ces choses-là, qui fait des choses avec les gens de Live Magazine dont tu parlais, etc. Et que cette école, mais ils en parleraient beaucoup mieux que moi, parce que je suis qu'intervenante, pas permanente, ils sont déchirés et écartelés entre les attentes du milieu professionnel. Ils sont très, très en contact. Ils font beaucoup d'apprentissage, mais ils veulent en fait que les gens qui vont sortir de leur école aient du travail, voilà, ce qui est quand même tout à leur honneur. Et les attentes aussi transmises par les rédactions sont non, mais on veut quelqu'un qui peut nous faire un 5W. Donc 5W, c'est qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, who, where, when, bref. Ah oui. Et donc des choses comme ça, évidemment, toi tu vas dire c'est du prêt à l'emploi, mais voilà, donc il y a cette demande forte du milieu, voilà. Et d'un autre côté, il y a une école qui quand même réfléchit et qui, par exemple, pour les trois mois intenses où ils ne font que de l'apprentissage d'écriture, choisit une enseignante qui dit « Moi, je ne veux plus écrire d'articles, je veux faire que des bouquins. » Donc, ça, tu vois, c'est pas... voilà. S'ils n'étaient pas d'accord, ils prendraient quelqu'un d'autre. Il y a d'autres profils. Voilà. Et moi, je leur parle de romans tout le temps. Je n'arrête pas de leur dire « Lisez un petit peu moins les journaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très, très mal écrites. » Je leur dis, mais surtout, je leur dis toujours, un des premiers trucs que genre, je les bassine avec ça, je leur dis « Si vous commencez un article et que c'est mal écrit, vous l'arrêtez immédiatement. L'info, vous pouvez l'avoir ailleurs. N'allez pas vous faire contaminer par ces écritures pénibles qui, malheureusement, sont encore trop représentées. Et vous posez le journal, vous regardez vite fait les infos importantes qu'il faut, vous écoutez la radio le matin, et après, vous prenez un roman le soir, plutôt. Et je leur dis beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Tu faut que tu ailles voir dans d'autres écoles où, voilà. Enfin, mais le CFJ, c'est pas si mal, quoi.
Moi, je voulais faire part d'un comment dire, d'une ambivalence par rapport à ça. À la limite, je pourrais prendre les deux choses que j'ai fait ce week-end et on serait aux deux pôles. D'un côté, j'ai publié dans AOC la nouvelle d'une jeune femme d'origine coréenne qui écrit en français, qui est arrivée en France en 2014, qui a fait le master de création littéraire de l'Université Paris 8 Saint-Denis, qui a travaillé avec Vincent Message et Lionel Ruffel. Et j'ai publié une nouvelle d'elle qui s'appelle Fenêtre, qui est un texte très beau, très fort. Je suis très content, c'est la première fois qu'on publie le texte de quelqu'un qui n'avait jamais rien publié où que ce soit ailleurs. Et on a fait AOC aussi pour ça, pour publier des auteurs reconnus, mais aussi des gens qui écrivent et qui publient pour la première fois. Et donc, voilà, c'est la preuve, ne serait-ce que ce texte, de l'importance de ces formations qui se sont un peu multipliées depuis une petite dizaine d'années. Je voudrais citer aussi celle de La Cambre à Bruxelles, qui est animée par Gilles Collard. Mais d'un autre côté, samedi, dans mon émission de radio à France Culture, j'ai invité quelqu'un qui est très important pour moi, qui est un grand poète américain, qui est par ailleurs un théoricien de la littérature aujourd'hui, qui s'appelle Kenneth Goldsmith, dont le livre a été traduit par François Bon, qui est l'un des professeurs d'écriture à l'école d'art de Cergy, dont vous parliez, mais qui lui fait un atelier de uncreative writing à l'Université de Pennsylvanie depuis 10 ans, et qui défend l'idée d'une écriture sans création. Et notamment dans cette écriture sans création, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est que là, on a pu, enfin, de mon point de vue, laisser entendre que, et c'est le cas dans le journalisme, les histoires pouvaient être un peu malmenées, menacées à cause du temps, à cause des formats, etc. C'est vrai, mais en même temps, je pense que les histoires se portent plutôt bien dans notre société. Il n'y a qu'à voir le succès des séries télé, etc. Et il y a des aspects négatifs à ça. Christian Salmon a écrit il y a quelques années déjà un très beau livre qui s'appelle Storytelling, dans lequel il explique, bon, il vulgarise un certain nombre de livres anglo-saxons dans ce livre, comment le fait de raconter des histoires était aussi un mode de gouvernement, hein, de gouvernement à l'intérieur des entreprises, de gouvernement à l'intérieur d'un pays. Les histoires ont un pouvoir terrible. Donc, je ne suis pas en train de dire que j'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore en écrire, j'adore. Mais je crois qu'il ne faut jamais être dupe, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à écrire des histoires ou d'apprendre à les lire, parce que ça permet aussi de donner les outils critiques aux lecteurs vis-à-vis des histoires pour ne pas qu'ils se retrouvent manipulés par les histoires. Mais je crois que c'est aussi très important de ne pas résumer la littérature aux histoires, aux intrigues. Je pense que pendant longtemps, on a cru que c'était la fiction qui régnait. Et comme ça, la fiction, c'est un peu le diable pour les journalistes, parce qu'on apprend. Enfin, les journalistes pensent souvent que c'est le contraire de la vérité. Or, comme l'a très bien dit Sylvain Gir, c'est pas du tout le contraire de la vérité. La fiction, d'ailleurs, ça peut être un outil de connaissance extraordinaire. La fiction, les sociologues en ont beaucoup moins peur que les journalistes. Ils s'en servent parfois pour anonymiser des histoires, raconter des dispositifs, etc. Bon. Donc. Mais les journalistes ayant peur de la fiction, et comme ils ont envie de raconter des histoires, ils ont inventé ce truc qui s'appelle la narrative non-fiction, qui est en fait en fait, ce qui compte, c'est l'intrigue, c'est pas la fiction. Et moi, je vois se développer la puissance de l'intrigue de plus en plus fort. Et ça m'intéresse de dynamiter ça. Alors pour ça, j'ai fait un petit livre de Uncreative Writing l'année dernière, qui est vraiment dans ce courant-là, qui s'appelle Bâtonnage, mais dont l'idée est de produire des textes. Je ne sais pas si c'est de la poésie, mais ça marche comme la poésie. C'est-à-dire que, heureusement que les poèmes enfin, tous les poèmes, la plupart, pas tous les poèmes, mais beaucoup de poèmes ne fonctionnent pas avec des intrigues. Ils fonctionnent avec des images, avec un autre rapport au temps, à l'organisation des phrases les unes derrière les autres, que la mise en intrigue. Et donc, voilà. Et donc, je suis persuadé que le journalisme, de la même manière, ne doit pas devenir une mise en intrigue généralisée. Il faut avoir recours aux intrigues, on en a besoin, c'est un mode de connaissance, mais c'est pas le seul. Je pense que il y a des formes de cinéma qui ne sont aucunement des intrigues, qui nous permettent de saisir par des sensations, par des émotions, par des sentiments. Et ce que je dis vaut évidemment pour la musique, vaut ça. Donc attention à l'espèce de règne que je trouve plus puissant que jamais de l'intrigue.
Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais et sur votre question, sur la question de l'omniprésence et du pouvoir néfaste du storytelling, qui est, en tout cas, comme l'expliquait très bien Christian Salmon, à la fois un mode de gouvernance et pour les journalistes, un piège absolu qui est le cannibalisme de la communication, un storytelling imposé qui passe souvent par sa vision la plus visible, c'est celle de l'agenda, d'une dictature de l'agenda où on va nous expliquer en fait le récit de l'actualité est préécrit par un agenda, donc on suit les pointillés. Et le storytelling, qu'il soit un storytelling d'intrigue ou pas d'intrigue d'ailleurs, mais qu'il soit le fait de construire son propre récit, d'être nous maîtres de ce récit-là, et notamment dans le temps, celui de l'agenda pour ceux qui font de l'actualité, j'y pense parce que nous, c'était notre enjeu au jour. Et l'idée de créer son propre storytelling, qui soit un storytelling effectivement d'intrigue avec un plaisir de lecture, de jouer sur les codes, par exemple, de la série, quelque chose de très incarné, ça nous permet, nous, journalistes, c'est une des solutions. Imposer son propre storytelling, c'est lutter contre le storytelling qui va nous être imposé par des figures, des puissances qui seront contraires aux intérêts de l'information, au contraire aux intérêts du journalisme, qui vont vouloir imposer autre chose. Donc, en ce sens, c'est intéressant et c'est pas forcément. Je pense qu'on peut inventer d'autres choses que l'intrigue. Alors nous, effectivement, au jour, c'est un petit peu notre truc, la question de la série et de l'ultra incarnation. Mais je pense qu'il existe d'autres propositions, effectivement, de en tout cas de construire un récit, c'est d'avoir la main dessus, quoi.
Et comme disait Sylvain à plusieurs reprises, c'est aussi en réfléchissant à ce qu'on fait, à pourquoi on le fait. C'est-à-dire que on peut voir dans des mauvais reportages télévisés, si on voit les coulisses, et nous, il nous arrive d'être sur le terrain et de voir les coulisses, ou de voir les gens après que la télé soit passée, et dire, ils m'ont dit de faire ça, de me lever, et puis d'aller laver tel truc, mais je fais jamais ça, en fait, moi. Enfin, de combien de fois on entend les gens nous dire, oui, vos collègues sont passés, puis ils m'ont demandé de conduire ma voiture, machin, comme ça, mais moi, je fais jamais ça, d'habitude. Bon, ça, c'est du storytelling, c'est-à-dire que pour l'image, souvent, voilà, c'est pas forcément que la télé d'ailleurs, hein, enfin, là je prends un exemple, mais voilà, dans l'urgence, etc., comment on va rajouter, tu vois, exactement ce que tu critiques, comment on va rajouter du storytelling, etc. Et ça, effectivement, je partage tes appréhensions et critiques, mais quand on va à la rencontre de l'histoire et qu'au contraire on regarde ce que fait la personne, et si c'est pas prendre sa voiture comme ça et laver son truc comme ça mais autrement, et qu'après on essaie de le restituer, voilà, il y a une histoire qui est là sur laquelle on n'a pas plaqué un storytelling, elle est là, on n'y peut rien, hein. Elles sont là, les histoires.
C'est un peu comme l'emploi du jeu tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'est pas dans la mise en scène mais dans une construction, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Mais je pense que dans tout ce qu'on essaye de faire, c'est la même question, c'est qu'on veut réintroduire du trouble, de la complexité, du flottement, du questionnement dans un univers où on était censé dire la vérité, le réel, sans conteste. Pourquoi une femme peut tuer 8 enfants et pourquoi je peux devenir copine avec elle? Comment je vais pouvoir parler avec un monstre? Comment je vais gérer l'école? Enfin, il me semble que ce qu'on essaye de faire tous là, c'est ça, c'est à travers ces techniques empruntées à la fiction, à la série, au feuilleton, au jeu, c'est de réintroduire un peu de trouble, de refuser d'avoir un discours idéologique sur le monde, ce que peut être le discours journalistique qui met en scène et qui truque tout autant que l'écrivain.
Oui, bonjour, je m'appelle Juliette. J'écoutais je vais poser une question par rapport au jeu dans le storytelling et à ses limites, en fait, parce que je me demande qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un à qui on donne la parole pour raconter une histoire en disant jeu. Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui a vécu quelque chose de particulier que quelqu'un d'autre n'a pas vécu? Et en fait, je pense qu'il y a aussi un danger à laisser n'importe qui raconter n'importe quelle histoire en disant jeu. J'écoutais la semaine dernière un podcast narratif à la première personne. C'est une jeune fille qui raconte son envie de suicide qui l'a suivie pendant plusieurs années. Et j'ai écouté jusqu'au bout, et heureusement, parce que je ne sais plus si ça dure 30-35 minutes, j'ai été super inquiète jusqu'à la 25e minute. Je me disais, c'est pas possible, on peut pas faire ça, on peut pas publier ça, on peut pas défendre ça comme étant du journalisme, c'est terrible. Je me suis dit, la pauvre, parce qu'en plus on entend à sa voix qu'elle est jeune et on entend que cette histoire la touche encore. Et je me suis dit, mais c'est impossible que dans 10 ans, elle ne regrette pas d'avoir raconté son histoire comme ça à ce média-là. Ils lui ont volé quelque chose de son intimité pour faire du clic, et elle va le regretter forcément parce qu'elle... bon, alors après, heureusement, à la fin, il y a une chute, puisqu'il se trouve que ce qui m'a dérangée, en fait, c'était on entend à sa voix qu'elle n'a aucun recul sur elle-même et sur son envie de suicide, mais vraiment aucun, sauf, je ne vous raconte pas la chute, mais la chute m'a rassurée. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait des limites... s'il y avait des limites au jeu dans une histoire, et comment est-ce qu'on fait pour sentir que la personne à qui on donne la parole a suffisamment de distance avec elle-même, en fait, comment on l'a choisie, est-ce que, enfin, c'est...
Mais vous avez tout à fait raison, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Le fait de parler au jeu et de choisir d'autres techniques ne dispense pas de la déontologie ou d'un minimum d'éthique ou d'humanisme ou d'empathie, au contraire. Il faut beaucoup se méfier, effectivement, de ce culte comme ça, de la narration à la première personne. Comment on fait? Je ne crois pas qu'il y ait une recette. On fait attention, on est attentif à chaque coupe, à chaque montage. On peut se tromper aussi. Il y a une course, effectivement, au témoignage, hein, à l'histoire perso la plus sordide ou bizarre ou étrange possible. Et ouais, il y a une vigilance à avoir.
Je ne suis pas sûre que la question, dans ces cas-là, soit l'emploi du jeu, personnellement.
Est-ce qu'elle est auteur ou témoin? Ce serait déjà une première question.
Et ben, en fait, la description de la vidéo ne le dit pas. Ouais. Il y a même une sorte de chapeau au début du podcast qui est la journaliste, donc non pas la jeune fille, mais la journaliste qui fait une sorte d'introduction, dont j'aimerais beaucoup savoir si c'est la journaliste qui l'a écrit ou la jeune fille qui lui a fourni, puisque dans cette introduction, elle dit... Le suicide n'est pas un appel au secours, il peut être une vraie envie de suicide. Donnons la parole à un tel.
D'accord.
Oui, donc elle est, sa parole a été recueillie par quelqu'un, enfin par une journaliste. C'est une,
ouais. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué quand on ne connaît pas la source et le diffuseur, l'éditeur de.
C'est transfert.
Ah ouais, j'étais sûr que c'était transfert. Ok. Ça a énormément de succès, transfert. Il y a un succès réel de ça, d'entendre des gens raconter leur histoire. Je ne le ferai pas systématiquement comme ça. Je pense que nous, on est. Mais bon. Mais je comprends très bien. Et il y a un vrai succès, il y a une vraie adhésion à ces grands récits de transfert.
Après, moi, je me répète un peu là-dessus, mais je pense que la question de la restitution du format, que ça soit un en journalisme, on recueille toujours des témoignages. Alors, parfois sur des sujets qui, eh ben, ce qu'on disait tout à l'heure, qui fracassent un peu plus l'intime, et donc qui mettent individuellement en danger plus précisément des personnes. Mais quel que soit le récit journalistique qu'on choisisse, aussi audacieux ou fantasy ou original soit-il, en fait, les règles de base de notre métier, elles ne changent pas. Et un témoignage non vérifié, qu'il ait été, quelle que soit la forme de rendu, ça change pas grand-chose. En fait, il y a un problème dans ces cas-là, quoi. Mais là, en l'occurrence, je ne pourrais pas me prononcer sur un podcast que j'ai pas entendu.
Non, on peut pas se prononcer là-dessus. Après, comme je suis la journaliste de Faits divers ici ce soir, évidemment, c'est des questions que moi je me suis beaucoup posées. J'avais cette forme plus protectrice encore parce qu'il y a ni la voix ni l'image de l'écrit, voilà. Avec ce moyen que j'ai énormément utilisé, qui est d'anonymiser les témoignages. Voilà, parce que je pense que ce qui intéresse le lecteur, c'est pas de savoir si la personne s'appelait Sylvie ou Nathalie, mais plutôt ce qu'elle peut raconter d'une situation sociale, d'un parcours, etc. Voilà, donc ça, moi j'y ai eu énormément recours, sans le moindre, mais vraiment sans que ça me pose le moindre problème, bien au contraire. Et après, Alice a raison, on est dans une profession où de toute façon, on a une responsabilité, on a une responsabilité importante. On doit l'exercer avec éthique et circonspection. Moi, ça m'est souvent arrivé de me dire il faut que je protège ces personnes, y compris parfois contre elles-mêmes. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me balance un truc hyper intime et de ne pas le mettre, alors que ce n'était pas inintéressant. Ça l'était même énormément. Voilà. Et donc là, on rentre dans une matière où après, on ne peut pas vous donner justement des règles et des recettes. Ça, on le met, ça, on ne le met pas. Ça. Et on est des êtres humains, et ça va passer par notre éthique, par le tamis par lequel on va sentir les choses. C'est pour ça que c'est important de passer du temps, de faire les choses bien, de réfléchir à ce qu'on fait, comme toutes les choses qu'on a dit ce soir, et voilà, d'avoir un sens des responsabilités.
Attendez, parce que c'est enregistré, comme ça.
Hop. On est enregistrés. Tous.
Donc, par exemple, en tant que journaliste de Faits divers, ça vous arrive d'être face à un témoin dont vous avez l'impression d'en comprendre plus sur lui que lui-même?
Alors, c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire.
Non. Alors,
les gens peuvent très bien comprendre, mais à 17 ans, se projeter peut-être moins facilement sur leur vie à 40 ans que moi quand on est 40. Enfin, je détesterais avoir cette posture-là de me dire moi je vois à travers les gens, je les comprends mieux qu'eux. Et non, surtout pas. Mais je veux dire, déjà juste le bon sens parfois peut être quelque chose qu'on peut convoquer face à des situations. Ensuite, le fait que là on parle de faits divers. On va arriver dans des moments de vie où des personnes qu'on va rencontrer peuvent être dans un moment de choc, et nous on ne l'est pas. Donc non, quand je vous disais c'était un extrême cet exemple, il m'est arrivé de me dire je ne vais pas retransmettre cette partie de leur parole parce qu'ils pourraient le regretter. C'est assez rare, mais surtout c'est une discussion, c'est un échange. C'est pas on prend et puis après on passe au tamis de notre intelligence. C'est la personne nous dit quelque chose et on lui dit mais vous êtes sûr que vous voulez dire ça, vous avez pensé à ça, enfin, c'est tout ça quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Enfin, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par des êtres humains quand on fait du journalisme. Les êtres humains, c'est nous, c'est d'autres gens, et d'où cette énorme responsabilité. Ça, par contre, je vous rejoins là-dessus.
Mais j'ajouterais quelque chose. On dit, je crois que c'est parce que c'est assez menacé du fait des moyens économiques du journalisme. On doit prendre cette responsabilité personnelle, mais le journalisme est souvent un sport collectif et je pense que c'est très très important de pouvoir échanger sur ce genre de choses avec ce collègue qui a son bureau à côté ou avec la personne qui vous a demandé ce papier ou celui qui va le relire.
Oui, et c'est bien partie. Que ceux qui relisent aient le temps de relire et
absolument,
de discuter.
Ces échanges-là sont très très importants, comme dans n'importe quel métier où c'est des questions de ce type, qu'on soit médecin ou enseignant. Voilà, c'est les mêmes genres de situations.
Et là, c'est d'autant plus important, je pense, dans le cas que vous citez, c'est qu'effectivement, on va se retrouver, surtout avec le podcast, même avec d'autres formes de journalisme en ligne, assez proche du blog, la naissance du blog. Et typiquement, sur des choses comme ça, vraiment, les personnes suicidaires, ou je pense au désordre alimentaire, nous on a produit comme ça un récit personnel sur un désordre alimentaire, c'est vraiment des questions très touchy. Et on sait que, par contre, ce sont des communautés qui ne pensaient pas avoir la parole et qui la prennent sur les réseaux sociaux et qui la prennent à leur façon. Et nous, notre rôle n'est pas justement de faire juste de la libre antenne. Tiens, t'as un désordre alimentaire, tu veux te suicider, tu te taillades, super. Parce que là, clairement, on sait qu'il y a une responsabilité par rapport à ces choses-là. Et c'est effectivement très difficile. Dans quelle mesure on va recueillir une parole assez libre et qui va nous déranger, parce qu'il n'y a pas forcément une morale à la fin. Le podcast américain, par exemple, doit être une leçon de vie. Ça doit finir comme un film américain où, à la fin, on a compris quelque chose, on est une meilleure personne et on va, tu vois. Or, ça se passe pas toujours comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'être allé à la fin. Et je pense que Transfert fait ça bien, parce qu'ils veulent qu'il y ait une leçon de vie. Et nous, le podcast qu'on a fait sur le désordre alimentaire, ça finit sur un truc très flippant. Je vais très mal, je suis en enfer. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de morale, il n'y a pas une fin heureuse. Et c'était compliqué pour moi, cette fin. Donc, j'en ai parlé avec l'auteur. J'ai dit, mais t'es sûr que tu veux finir là-dessus? Parce que tu sais, tu vas être écouté. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent de désordre alimentaire, évidemment, comme toi. Bon, bah oui, pour elle, c'était ce message était celui-là qui était important. C'était vivre avec et ne pas en finir avec ce désordre. Bon, c'est pas simple. On va se retrouver face à ça. Donc, nous, du coup, on a une, je dirais, une d'autant plus grande responsabilité qu'on n'est pas un blog et qu'on n'est pas une libre antenne.
Merci de vos interventions. Sur l'expression récit journalistique, est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure où, si l'on en croit les sondages, il y a une défiance massive du public sur les médias, qui n'a l'égal que leur défiance à l'égard des politiques, à l'heure où aussi se perd le sens du mot juste, récit peut être, je pense pour beaucoup de gens, compris comme histoire, des histoires, raconte-moi une histoire, alors que ce que vous indiquez, c'est la relatation. D'ailleurs, j'ai noté que c'est Sylvain Gir, à un moment, a dit faire la narration, c'est-à-dire ce serait plus proche de la transposition par la voix d'un journaliste, de faits dans leur complexité et avec donc un effort d'écriture. Est-ce que ça vous satisfait, cette expression journalistique, puisqu'au fond vous évoquez des journalistes qui se font écrivains. Par Marguerite Duras, vous avez évoqué l'écrivain qui se fait journaliste. Où sont les frontières?
Mais il y a quand même, il faut que ça reste un plaisir, un article à lire. Si c'est pas bien écrit, on le lit pas. Hein. Albert Londres, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau à lire Albert Londres, mais c'est des phrases de 2-3 mots. C'est très rare en plus dans l'écriture française, quelqu'un qui écrit avec des phrases aussi courtes. Il y a peu de mots. À un moment, il dit « La colonisation, c'est un match de football entre les commerçants et les militaires, et l'Afrique, c'est le ballon. » On ne peut pas faire mieux. En aussi peu de mots, quoi.
Et puisque vous étiez dans les citations, je voudrais rendre hommage à Proust, que je trouve incroyablement prémonitoire dans une des phrases nombreuses qu'il a dites il y a donc une centaine d'années. Les faits ne pénètre jamais le monde de nos croyances.
Merci.
Bravo. Non mais, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, il y a une dimension de plaisir, de style, toujours. N'importe quel article, même le compte-rendu d'un match de football, il y a toujours un style, il y a toujours séduction. Et comme tu disais, il y a toujours mise en scène. Et la télé, archi dans la mise en scène, avec effectivement, ouvrez votre porte, prenez votre vélo, rentrez chez vous, bonjour. Enfin, tout ça. Et, bon, nous, il me semble qu'on est sur un autre. Qu'on essaye d'être sur un autre registre.
Bah, oui. Enfin, après, moi, mes étudiants, la première chose que je leur. Au départ, au tout départ, voilà, quand on commence, je leur dis d'abord, essayez juste de n'avoir pas de style et d'être. Voilà. Fluide, ouais. Limpide, c'est la première politesse. Voilà. Ouais. Et déjà, arriver à ça, c'est arriver à pouvoir faire un article voilà, sans rajouter mille effets. Voilà. C'est la première chose que je leur dis. Après, je ne suis pas sûre d'avoir exactement compris votre question. Donc peut-être que...
Non, mais sur la... Pour préciser ce que... Je pense quand je dis qu'il faut essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire quand on le fait, par exemple, il ne faut pas se voiler la face devant la tension qui peut exister entre la pente vers laquelle on aimerait, pour des raisons d'écriture, de style, aller, et puis l'exactitude, la précision des faits qu'on a pu recueillir, dont on a pu être témoin. Et il y a pu y avoir aussi dans des courants qui revendiquaient une subjectivité d'écriture très forte comme le nouveau journalisme, l'idée qu'on pouvait sacrifier un peu de vérité à une bonne blague.
C'est ce que disait Bolton.
Voilà, et que donc on pouvait, je ne sais pas, si vous faites le portrait de quelqu'un que vous rencontrez pour le mettre en situation avant de le faire parler dans votre enquête et que vous trouvez que ça va mieux avec votre texte, qu'il porte un pullover rouge plutôt que bleu. Je pense qu'il y a, quand je parlais de micro-fiction tout à l'heure, je pense que beaucoup de journalistes injectent ces micro-fictions sans toujours savoir ce qu'ils font et en ayant de la fiction une conception comme la chose à éviter absolument. Moi, je prône plutôt un rapport un peu relax à la fiction qui est un genre possible dès lors qu'on sait qu'on y a recours et que c'est pas grave par rapport aux enjeux qui sont là. Donc là encore on tombe sur des questions de responsabilité mais on peut pas mettre un contrôleur épistémologique derrière chaque journaliste au travail quoi. Je veux dire c'est à chacun de voilà. Mais en tous les cas, si on balaye d'un revers de la main l'idée que ces tensions existent, on ne peut pas produire, à mon avis, du bon journalisme. Enfin, on vit avec, quoi. On est au cœur de ces tensions en permanence.
Mais vous nous posiez la question de quelles étaient les frontières, par exemple, entre journalisme et littérature. Les frontières, elles sont très claires. Elles sont celles du réel, en fait. Et dès lors qu'on rentre même dans une micro-fiction, c'est ce qu'on appelle très grossièrement dans notre jargon journalistique, c'est du bidonnage. Même si on pense qu'il n'y a pas d'enjeu, un faux
la
décor.
La couleur du pull.
Voilà, ou... la couleur du pull ou un faux décor. La frontière, elle est celle du réel. Et puis, il y en a une seconde qui est quand même dans la fonction du journalisme, qui est d'informer. Et donc, c'est des frontières qui sont plus élastiques que celles du réel et du non-réel, mais qui peuvent être, par exemple, l'intérêt public. Si je le prends par défaut, la non-violation de la vie privée, qui sont entre autres d'ailleurs régies par le droit. Mais pourquoi je raconte ça et pourquoi je le raconte de cette façon-là, si on reste dans la question du journalisme narratif. Le journalisme, voilà, il ne faut pas que ça soit faux, en fait, tout bêtement. Et puis, il faut qu'on ait un intérêt à raconter ça, c'est-à-dire un intérêt d'information qui peut être, on entend souvent l'intérêt public, mais ça peut être l'intérêt public, on peut en avoir une notion un peu plus vague, et puis de ne pas apporter préjudice sur la protection d'un certain nombre d'informations, qui, par exemple, la vie privée. On peut violer d'autres protections d'informations, en revanche.
J'ai jamais trop compris ce que c'était, moi, le docu-fiction et la fiction documentaire. Enfin, j'ai beaucoup de mal, c'est vrai, surtout en radio, à faire la frontière entre les deux. Parce que, en radio, mais comme en télé, le son est toujours source d'ambiguïté et de mensonge. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas pris le son au bon endroit,
Bon, là, on a beaucoup parlé de l'histoire de banlieue. Le son d'un hall d'immeuble en banlieue, c'est absolument pas le même que le son d'un hall d'immeuble à Paris. Et il y a une fois où l'auteur, ayant oublié de l'enregistrer, il a fait sa cage d'escalier à lui à Paris. Ben, c'est pas possible. Sa cage d'escalier en bois, elle sonne pas du tout comme la cage d'escalier d'un HLM. Donc, même avec le son, il faut être très très précis. Nous, on demande toujours aux gens d'avoir le vrai son du vrai endroit et tout, quitte à après. Par contre, en radio, c'est plus la chronologie qui est bousculée. En radio, le passé, le présent peuvent coexister, cohabiter, ça permet plein de choses. Et donc, mais le rapport au son, à l'écoute, est toujours très mensonger. Il y a une forme de mentir vrai. On a fait des fictions documentées. Voilà, des fictions qui s'appuient sur une base documentaire. Il y a une narration, il y a un texte écrit, il y a des comédiens, mais ce qu'on raconte va être vrai. Un comédien va jouer un rapport de police. Voilà, ça on l'a fait avec De Guerre en Fils. Mais le docu-fiction, c'est... c'est les espèces de mises en scène. Ça, c'est assez dur pour moi, le docu-fiction. Ouais. Je suis assez contre.
Mais je vais vous donner un exemple d'usage de fiction, puisque j'y faisais allusion tout à l'heure, par les sciences sociales, qui me paraissent un bon outil de connaissances, puisque l'enjeu c'est celui-là. Je pense à un livre d'un sociologue qui travaille sur la corruption et sur la criminalité en col blanc, qui s'appelle Pierre Lascoum. Alors quand vous travaillez sur ce genre de sujet, que vous êtes sociologue, que vous avez des moyens d'enquête qui ne sont pas les mêmes que ceux d'un juge d'instruction, qui ne sont pas les mêmes que ceux d'un journaliste d'investigation, votre souci n'est pas de savoir si Monsieur X ou Monsieur Y est coupable. Votre souci est de décrire des mécanismes, des relations sociales qui existent dans la société. Comment ça marche, le blanchiment d'argent, comment ça marche, la corruption sur les marchés publics, dans une... Bon. Or, comme vous n'avez pas les moyens d'enquête et surtout vous n'avez pas non plus le soutien juridique derrière vous nécessairement comme chercheur pour oser écrire des faits en nommant les gens, eh bien vous êtes conduit, et ça a été le cas de Pierre Lascoum, à inventer des villes qui n'existent pas. Et ça va au-delà de l'anonymisation, puisqu'en fait, c'est une technique qui ressemble à une technique qui est très souvent utilisée dans les sciences sociales, qu'on appelle l'idéal type, dont Max Weber a fait beaucoup usage. Et donc, c'est une ville, c'est aussi, ça ressemble beaucoup à ce que peuvent faire les romanciers quand ils vous expliquent que pour créer un personnage, ils ont télescopé plusieurs personnes qu'ils connaissent et ils ont inventé une personne qui n'existe pas en tant que telle, mais qui est très vraisemblable, etc. Bon, et là, un sociologue fait la même chose. Il invente une ville, il vous dit qu'elle a tant d'habitants, elle est dirigée par tel type de parti politique. Alors, éventuellement, d'ailleurs, ce sera le vrai parti politique, etc. Mais parce que son souci est d'expliquer des mécanismes, des relations sociales, et que juridiquement, il ne peut pas le faire autrement qu'en le faisant comme ça. Moi, j'estime, comme citoyen et comme lecteur, d'abord, ça m'intéresse autant qu'un journaliste, que le travail d'un journaliste d'investigation qui va obéir à d'autres logiques. Et je pense que c'est aussi utile parce qu'on peut écrire beaucoup plus de choses, en fait. Et on peut prendre la mesure également de l'ampleur d'un certain nombre de phénomènes. On est dans une perspective qui est complètement différente. Et d'ailleurs, je me suis souvent demandé pourquoi les journalistes devraient à tout prix se situer davantage en général dans les pas du juge d'instruction que dans les pas du sociologue de ce point de vue-là. Je pense que quand on est journaliste, on doit autant faire l'un que l'autre en fait. Évidemment, le journalisme a un rôle important de révélation des malversations qui touchent la vie publique, etc. C'est très important. Mais on ne peut pas non plus ne faire que ça comme journaliste. On est obligé de donner des connaissances qui ne relèvent pas de la justice, par exemple. Là, je prenais l'exemple de choses de faits délictueux, mais on pourrait appliquer ce que je dis à plein d'autres domaines. Donc, je rêve parfois d'un journalisme qui serait plus à l'aise avec la fiction et qui pourrait le dire, enfin, qui pourrait dire, ben voilà, ce que j'ai écrit repose sur 2 mois d'enquête dans un endroit, j'ai recours à la fiction pour telle et telle raison. Et ce que je vous écris n'en est pas moins vrai, quoi. Voilà.
Comme l'heure avance, on va prendre une dernière courte question.
Oui, je ne voulais pas prendre la parole, le micro, parce que je suis arrivé à la fin. Mais pour les professionnels que vous êtes, je voulais vous donner une expérience de lecteur. La semaine dernière, j'avais le loisir de lire de la presse régionale, l'Est républicain et Épernay, donc payant. et un hebdo distribué dans les commerces, un hebdo moitié article et moitié promotion, moitié publicité. Dans le quotidien gratuit, il y a ces pages pleines où on individualise les sorts. C'était un artisan qui fabrique des bottes dans la région de Troyes, dans l'Aube. Voilà, la photo, elle doit tenir plus d'un tiers de la grande page. Bon, il est d'actualité parce que Madame Macron lui a passé une commande. Voilà. La seule phrase qui pouvait m'intéresser, c'est que son métier, il le tient grâce à ses grands-parents. Voilà, ça, je trouvais ça intéressant. Mais dans l'hebdo gratuit, il y avait une demi-page où à Épernay, une maison qui fabrique du champagne a une pression de la maison mère, qui est états-unienne, je crois, qui demande des dividendes, des millions d'euros. Et dans cette entreprise, les salariés se mettent rarement en grève. Donc, ils faisaient une heure à la pause, une heure d'arrêt. Et le journaliste a pris soin de noter que c'était deux tiers des salariés. Je crois que c'était 60 sur 80. Je me disais, tiens, ils sont courageux parce qu'ils s'exposent. Je n'allais pas le lire, l'article, parce que c'était les mêmes photos classiques. La CGT, j'ai rien contre la CGT. Mais je n'allais pas rentrer dans l'article. Et dans le titre, on parlait bien de cette maison mère qui met la pression pour avoir des dividendes. Et en refermant, en prenant le train, je me disais, mais c'est étonnant parce que ces papas qui gardent la face vont devoir amener leur enfant en vacances, mais avec une pression énorme, parce qu'ils ne savent pas si à la rentrée, ils auront encore ce CDI. Voilà, j'ai appris plus, j'ai trouvé plus d'intérêt dans un hebdo gratuit que dans une presse régionale payante. Voilà, c'est une expérience de lecteur.
Un petit commentaire ou...
Chose à dire.
Non, ça, non, c'est tout simplement juste... je ne sais pas si c'est lié. On dit souvent qu'il y a des écosystèmes donnent du sens au journalisme. Là, visiblement, ce n'est pas vrai. Donc, je ne sais plus quoi dire puisque je défends l'inverse habituellement.
C'est donc, l'exception qui confirme la règle.
Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, mais ce que vous disiez sur ce plan social est intéressant parce que voilà, ça sert à ça, le récit journalistique. Ça sert à donner du sens à des chiffres, par exemple, deux tiers de salariés licenciés dans une entreprise. Voilà, c'est les interrogations qui sont les vôtres après, c'est comment vont-ils partir en vacances, etc. Je trouve que si ça peut servir à ça, que la publication soit gratuite ou payante, c'est intéressant.
Et il faut, avec ces questions de récits aux jeux et de podcasts, il y a un souci, c'est que ce qui se fait beaucoup, alors sans doute il y avait un manque, ça a répondu à une absence dans les médias mainstream, comme on dit, ce qui émerge, c'est les questions de genre et de race. Et tout ça, comme je l'ai écrit récemment, au bout d'un moment, ça manque de classe. Donc la question, c'est comment on va sortir un peu des témoignages et des questions d'identité qui ont sans doute été niées, qui n'ont pas été assez traitées. Et donc maintenant, c'est ça qui s'exprime, c'est les questions féministes, les questions de genre, les questions de race et tout. Et comment, avec des récits à la première personne, on va réintroduire des questions qui concernent toute la société, le collectif.
Surtout comment on va articuler les trois en faisant ce qu'on appelle l'intersectionnalité, parce que c'est encore plus compliqué, mais encore plus important, je pense.
Mais là, je crois que là aussi, il y a un gros travail à faire, mais c'est possible. Je veux dire, c'est possible de faire un récit à la première personne qui ne soit pas simplement narcissique, quoi, pas entièrement tourné sur soi. Et comme ce que tu l'as dit très bien, et c'est vraiment toujours ce qui nous guide, à un moment, plus on est sincère, plus on creuse, plus on va loin, y compris dans sa propre personne, plus on se questionne avec sincérité, plus on a des chances de toucher quelque chose d'universel et de raisonner, quoi.
Bon, eh bien, il me revient maintenant de remercier nos quatre intervenants, donc Ondine Millot, Sylvain Bourmeau, Alice Géraud et Sylvain Gire. De vous dire que ce soir a été enregistré, donc vous pourrez retrouver le débat de ce soir, ainsi que les autres dates du cycle. Par exemple, je vous invite à réécouter le grand entretien de Claude Guibal, qui est grand reporter à France Inter, et qui, entre autres, quand elle couvre des conflits, dit toute sa difficulté de faire le lien entre le dicible et l'indicible, quand on est face à certaines atrocités. Donc il y a des fils qui se sont tirés au cours de toutes ces tables rondes. Un grand merci pour cette table ronde passionnante. Tous les livres sont à la bibliothèque. Nous sommes aussi abonnés au jour. Voilà, comme ça vous pourrez tout venir découvrir. Remercier nos techniciens et vous dire Rendez-vous le 24 septembre pour le premier grand entretien et en octobre une table ronde sur la déontologie. Voilà, comme quoi on va... Oui, pas rien. On va fermer une boucle. Merci à tous et surtout merci à vous quatre.